Vous écoutez
RMC.
RMC.
Quand bien même on est mené 1-0, on a une capacité justement à revenir. On a cette foi qui est inébranlable. Découragement n'est pas ivoirien.
Hop, on s'attaque, but, élimination des Coupes d'Europe européennes.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible. Elle a séché, c'est terminé.
RMC jusqu'à 22h. Génération After, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
On est à J-2 avant le quart de finale de l'Euro 2024 entre la France et le Portugal. Et vous en doutez, ce Génération After va bien sûr se lancer déjà dans ce quart de finale. Comment les Bleus peuvent, doivent est-ils jouer sans Rabiot? Venez nous le dire, vous donner votre avis au 32-16, en débattre avec la team qui est là aujourd'hui. Un petit but sur pénalty pour Kylian Mbappé dans cet Euro. Peut-on espérer un meilleur Mbappé? Comment? Là aussi, on attend vos suggestions. Avis tranché d'Elton Mokolo. Battre l'équipe de France est le plus gros défi en foot de sélection. D'accord avec lui ou pas? On vous attend au 32-16. Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, fait n'importe quoi dans sa gestion de Cristiano Ronaldo. Ce sera l'avis tranché de Kevin Diaz. Et puis on aura Thierry Henry très contrarié à l'approche des JO. Il a des joueurs qui ne sont pas libérés par leur club, notamment Kefren Thuram. On l'écoutera dans un instant. Et puis toutes les infos du jour, bien entendu. Ce soir avec nous, dans Génération After, monsieur Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
L'homme poterie.
Bah bien sûr, mais ouais. J'aime beaucoup ce jingle.
C'est vrai?
Ouais. Je ne retirerai aucun mot.
D'accord, on le garde. Elton Mokolo, comment il va celui-ci?
Salut Nico, salut à tous.
Ça va?
Je vais très bien.
C'est vrai?
Ouais, je vais très bien, ouais. Et très content de faire cette émission avec toi.
Écoute, plaisir partagé, je suis très content d'être avec moi aussi. Tout comme avec Ricardo Fati, comment il va celui-ci?
Salut Nico, très bien, écoute, comme un 3 juillet.
C'est-à-dire?
L'été, le soleil.
L'été, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
On profite.
Bien sûr. Voilà. Si vous voulez parler de météo, on vous attend en 32-16 aussi. À partir de 22h, lui, il ne craint pas le soleil ni la pluie. Tout glisse sur le crâne luisant de Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
Crème solaire quand même.
Oui, ce que j'allais dire. Plus le soleil que la pluie, non?
Faire attention.
Ouais.
Faut qu'on alimente sa peau.
Tu mets quoi dessus?
La crème solaire.
Non, mais genre, tu mets pas de crème au quotidien ni rien?
Ah si, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. M'inspire des plus grands footballeurs.
Pur essentiel.
Guti. C'est Fred Hermel qui doit raconter le choc que Guti est resté pendant une heure à mettre de la crème dans le vestiaire. Je sais pas comment il le sait, Fred, il y était pas en plus.
Ouais, mais il a des infos de ouf.
Ah, c'est pour ça.
Oui. Tu mets pas de crème, toi, au quotidien?
Si, mais sur le visage.
Pas sur le corps.
Non, pas sur le corps.
Ouais.
Pourquoi tu voulais savoir?
Cette barbe-là. Ça fait un moment qu'on en a pas parlé.
Oui, bah vas-y, dis.
Ah, mais. Faudra que ça s'arrête un jour quand même.
Ah non, bah j'en profite.
Elle est déjà beaucoup moins épaisse qu'à un moment.
Ouais, c'est non, clair. Franchement, là, c'est plus épuré, non?
Ouais.
En fait, par les temps qui courent, je me dis, on va peut-être se planquer. Tu sais, ça se trouve, dans quelques jours, on va falloir couper toutes les barbes du pays. Donc, j'anticipe. Bon, voilà.
Surtout pour les binationaux.
Exactement. Voilà. On aura quoi à 22h, mon Gilbert? Ça va parler barbe ou pas?
Pas du tout.
Ça va pas être barbant d'ailleurs.
Non, pas du tout. Alors déjà, l'équipe de France, Walid Acharchour est chaud sur Griezmann. Là, il en peut plus de le voir à droite. Donc, il veut nous donner son avis sur la question. Donc on débattra évidemment de la compo de vendredi. Puis les drôles de dames seront là. Petit bilan des huitièmes. On se projettera vers les quarts de finale. Force, faiblesse de chacun. Et puis l'OM, gros dossier de Zerbi ce soir. Florent Germain sera là. Johan Crochet également, qui connaît bien le Zozo. Donc la révolution de Zerbi à Marseille. Le mercato dingue là qui est en cours. Donc le point tout à l'heure pendant presque une demi-heure à 23h. Et puis Hamza Rahmani sera là pour nous raconter le début de la Copa América, que personne ne voit à part lui, vu que les matchs sont entre 3h du matin.
Et qu'il a que ça à faire.
C'est vraiment compliqué, hein, parce que tu finis à 5h.
3h, c'est dur.
3h, ça pique un peu quand même.
C'est le pire horaire.
Tu te bats.
Et ça donne quoi là en termes de niveau? Parce qu'on se plaint de l'euro, mais.
En termes de niveau, moi par exemple, j'ai vu le Brésil hier, c'est vraiment pas fameux.
Ah ouais. Ça fait un moment, j'ai l'impression.
Le Uruguay, le Venezuela.
Par contre, Colombie, c'était bien. Ouais. Colombie, c'était bien. Ils ont terminé logiquement à première place. Et l'Uruguay, ouais, ça a été vraiment bien. Après, l'Uruguay Bielsa, on savait que ça serait compétitif.
Ouais.
Cela dit, habituez-vous, parce que la Coupe du Monde 2026.
Ça, c'est vrai.
Ça va être des heures tardives.
Non, mais ils vont peut-être faire des horaires.
Ils vont pas faire les horaires selon Kevin Diaz, monsieur.
Non, mais parce qu'ils le connaissent pas. Diaz.
Ah, bon,
déjà, peut-être pas. Déjà, un de mes objectifs, c'est d'être à la Coupe du Monde 2026.
Comme sélectionneur?
Ouais.
Écoute,
en tant que
plutôt comme manager général d'une sélection. Non, je plaisante. non, je plaisante. Mais je trouve que ce serait un bon moyen de visiter les États-Unis. Quand même, quand il y a des grandes compétitions comme ça, on essaye d'avoir des horaires à peu près. Non,
la Coupe du Monde 2014. Pour avoir des matchs à 14h.
94, c'était pas.
Ah oui, bah, c'est ça. Pour
non, c'est dans la journée, toujours
40 degrés.
Ouais, mais t'as raison. Ils jouaient. Maintenant, ils font en fonction de l'heure publique à eux, si tu veux. Ils
parlent. Les Américains, les stades sont quasiment tous couverts et tout, donc tu pourrais jouer à midi.
Ouais.
Ouais,
ouais, ouais.
Bon, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci, Gilbert. Et puis cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister aux demi-finales de l'Euro 2024. On vous propose de vivre l'expérience RMC avec le voyage à Munich, un vol plus hôtel. La rencontre avec les équipes RMC avant le match et bien sûr les deux places pour la demi-finale du 9 juillet. Ce sera à 21h dès que vous entendrez cette alerte. Vous aurez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16, Euro au 732-16. Voilà, pour remporter vos places, le voyage, le all inclusive pour la demi-finale de l'Euro 2024. Restez à l'écoute, ça peut tomber n'importe quand. Et en attendant, nous, on va se projeter sur le quart de finale de vendredi à 21h à Hambourg entre la France et le Portugal. Didier Deschamps qui devra faire son Adrien Rabiot suspendu. Alors hier, lors de l'entraînement ouvert à la presse, ça c'est les infos RMC Sport, Didier Deschamps a longuement échangé avec Youssouf Fofana. Alors est-ce que c'est un indice sur sa possible titularisation ou pas ? Autre possibilité qui est fort probable, elle aussi, c'est Kamavinga qui pourrait jouer au milieu de terrain. Ou alors, possibilité de mettre Griezmann plus dans l'axe, au milieu. Du coup, on aura le retour de Dembélé dans le couloir, avec Mbappé a priori à gauche et dans l'axe, ça c'est à voir. D'ailleurs, tout à l'heure, on reviendra sur l'attaque des Bleus. On vous attend au 32-16 pour notamment évoquer Kylian Mbappé. Question qu'on vous pose, comment jouer sans Adrien Rabiot ? On vous attend au 32-16. Qui veut commencer, les gars ? Ouais. Comment on joue sans Rabiot ? Vas-y, Ricky.
Bah, connaissant Deschamps, je pense que ça va être du poste pour poste, malheureusement. Moi, je pense que, bon, on sait tous, Rabiot, c'est un joueur qui a pris une très grosse dimension depuis quelques années. On le voit aussi à la Juve, c'est devenu un leader. Il est en fin de contrat, donc forcément, il a aussi envie de se montrer. Et on le voit, il est beaucoup plus mature, il est vraiment important dans l'effectif, dans le collectif de Deschamps. Après, on a un groupe de 26, hein, on a un groupe de 25. Donc après, mais malheureusement, comme j'ai dit au début, Deschamps, ça va être du poste pour poste.
Tu vois qui, toi, plus
tard? J'avais dit en début de compétition, j'ai envie de voir plus d'audace, plus de force offensive chez les Bleus. Malheureusement, bon, j'ai pas été entendu. Mais moi, je verrais une animation, on va dire, un peu plus basique, mais plus offensive, avec deux doubles pivots qui sont Tchouaméni et Kanté, qui peuvent faire le travail dans la récupération sans problème. À la récup, et puis remettre Dembélé à droite, et puis après à gauche, ça va dépendre de la forme du moment. Peut-être ça peut être pourquoi pas Barcola, pourquoi pas forcément ça va être Kylian et Griezmann derrière qui tourne autour de Thuram au pivot.
En faux 10 quoi.
Voilà, en faux 10, en totale liberté, en électron.
Mais tu penses qu'il va faire ça des gens?
Bah, j'aimerais, bien sûr. Mais comme je l'ai dit au début, malheureusement, je pense que ça va être poste pour poste et ça va être frileux.
Ouais. Elton ?
Après, aujourd'hui, il y a une idée pour Didier Deschamps. La formule des milieux de terrain, le milieu de terrain renforcé te rapproche plus de la victoire que la formule avec les trois offensifs. Et pour le coup, difficile de dire que les offensifs en question ont donné satisfaction, parce que c'est le gros problème de l'équipe de France, cette incapacité justement à être décisif devant. Et à partir du moment où t'es pas décisif, et d'ailleurs t'as un cas qui est symbolique, Ousmane Dembélé qui est sorti du 11 et qui n'a pas été aligné face à la Belgique, qui n'est même pas rentré en jeu, et ben du côté de Didier Deschamps, dans la perspective du quart de finale, et ben il va continuer avec cette formule du milieu de terrain. Maintenant,
il y a... Mais tu penses qu'il mettra qui, toi?
Moi, je pense qu'il mettra Kamavinga.
Okay.
Je pense qu'il mettra Kamavinga parce que Kamavinga, et en plus moi c'est une option qui me plaît, une option qui m'intéresse, parce que Kamavinga, alors c'est vrai que parfois tu balances la pièce en l'air avec Kamavinga, mais lui il a cette prise d'initiative individuelle qui manque à l'équipe de France. Mmh. Parce que pour moi c'est une équipe qui a une approche beaucoup trop scolaire, voire une approche qui peut être qui est très compliquée, mais par rapport à ça, Kamavinga est capable de changer de rythme, il est capable d'apporter quelque chose de frais, de dynamique, qui peut aider l'équipe de France.
Kevin, tu dis quoi toi? Il n'y a pas Rabiot demain. C'est marrant parce que je pense qu'il y a encore deux ans, on aurait dit ça, on aurait dit ouais, il est où le problème de ne pas avoir Rabiot? Ouais. C'est devenu un taulier ce mec-là. Tu penses qu'il fera quoi Deschamps, et toi tu ferais quoi à la place de Deschamps?
Je pense que Deschamps... Alors, il y avait deux solutions, honnêtement, pour vous dire la vérité. Hier, j'aurais plutôt dit qu'il allait mettre Fofana pour avoir un joueur de plus costaud au milieu. Mais en tout cas, celui qui se rapproche le plus d'Adrien Rabiot, ça reste quand même Kamavinga. Parce qu'il est gaucher, parce qu'il joue quand même au Real Madrid, parce qu'il est titulaire en finale de Ligue des Champions. Il a quand même beaucoup de caractéristiques qu'aime beaucoup Didier Deschamps. Ensuite, c'est vrai, comme dit Elton, que Kamavinga, il a cette capacité à quand même pouvoir se projeter, à être créatif, voire même à frapper au but. Il a mis un but contré, je crois que c'était en demi-finale de Ligue des Champions. Donc les buts contrés en ce moment, c'est un peu la marque de fabrique de l'équipe de France. Donc je dirais pas que Didier Deschamps va jusque là, mais presque. Mais en tout cas, ça reste un joueur qui est très très intéressant. Et je lis ce soir que c'est peut-être le favori pour remplacer Adrien Rabiot. Pourquoi pas? Ce serait aussi plutôt mon choix. Moi, honnêtement, ça y est, on est en pleine compétition. On a parlé de Didier Deschamps depuis 10 ans maintenant. Je pense plus du tout comme Ricardo qui est nouveau dans le métier, qui espère encore qu'un jour on verra
dans le game,
qui espère encore voir une équipe de France plus alléchante, plus offensive. Non, ça c'est terminé. C'est aux oubliettes. Il s'est encore félicité d'avoir un Jules Koundé qui est excellent alors qu'il a été critiqué. Mais en tout cas, je pense pas qu'il va changer de fusil d'épaule maintenant.
Kevin, il faut être plus compétitif. Qu'audacieux pour reprendre les mots de Ricardo, parce que c'est la vérité, c'est la réalité de cette équipe de France, à savoir qu'à partir du moment où tu es sur quelque chose d'inédit, à savoir que tu es en panne sèche de but. Parce que pour la première fois depuis que Didier Deschamps est en équipe de France, l'équipe de France arrive sur un match 5, donc quart de finale, Coupe du Monde Euro, avec seulement 3 buts.
Alors que un pénalty, un CSC.
Exactement, voilà. Alors que traditionnellement, et c'est quand même paradoxal, ouais, quand on parle d'une équipe de France de Didier Deschamps, la moyenne c'était entre 6 et 10. Et donc là on est à 3, c'est moitié moins par rapport à 6. Donc forcément c'est beaucoup plus compliqué pour l'équipe de France d'avancer. Et en gros, dans l'esprit de Didier Deschamps, on va se dire que la solidité va te permettre de te rapprocher de la victoire.
Oui, et puis il y a pas que ça. Il y a la phrase dont parlait Daniel hier dans l'after, où il disait il va finir par y en avoir une. Mais en fait, c'est clairement l'état d'esprit Didier Deschamps. On reste solide et il va finir par en avoir une. Aujourd'hui, force est de constater que ça marche. Ça marche parce que l'équipe de France est rentrée dans la tête des équipes adverses. Et aujourd'hui, que ce soit la Belgique.
Parce que toi, tu vas en parler après de ça.
C'est un petit teaser, là. Ouais.
que ce soit la Belgique, et surtout, Nico et moi, on connaît bien en tant que franco-portugais, mais c'est clair. Les Portugais, ils ont peur de la France. Les Hollandais, ils ont peur de la France. Les Allemands, les Espagnols, tout le monde a peur de la France. Parce qu'on sait qu'on n'est pas beau à voir jouer, mais on sait qu'on est très très dur à voir jouer, Et donc, imbattable sur les 10 dernières années en compétition, en match à élimination directe, en tout cas dans les 90 premières minutes.
C'est un peu l'approche, moi, qui me dérange. Moi, j'ai vraiment envie qu'on s'adapte aussi un peu à l'adversaire pour pouvoir les contrer, pour pouvoir les contrarier. Moi, je pense que justement, ce système en 4-2-3-1, avec deux vrais ailiers et Griezmann entre les lignes, peut vraiment perturber l'animation portugaise, parce qu'on les connaît maintenant, avec Cancelo, Nuno Mendes, qui sont très offensifs.
Ah, ils vont vouloir avoir le ballon, en plus.
C'est ça. Moi, je pense que ce soit même pour nous, peut-être, pourquoi pas en transition, ou même dans des attaques assez placées sur les côtés, des 1 contre 1, tout ça, avec les latéraux qui sont très forts offensivement, mais très moyens défensivement. J'ai envie de voir des choses, mais encore une fois, je pense pas.
Aujourd'hui, il y a la théorie et il y a surtout la pratique. Parce que autant en qualification, il y avait des éléments de satisfaction, autant sur la réalité d'un tournoi final, forcément, cette Formule 3 offensive n'a pas donné satisfaction, parce que encore une fois, tu subis le fait que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne sont pas bons individuellement et qu'Ousmane Dembélé a trouvé le moyen d'être mauvais. Donc forcément, Didier Deschamps au moins trouvé des solutions, notamment Barcola. Il a testé sur le match contre la Pologne. Visiblement, il n'a pas nécessairement donné satisfaction, alors que pour moi, il m'a donné satisfaction. Donc il va revenir sur son idée, la France des milieux de terrain.
Ouais, les gars, on poursuit le débat dans un instant. On sera avec Hichem qui nous a appelé au 32-16. Comment les Bleus doivent jouer sans Rabiot face au Portugal, le quart de finale? Est-ce qu'on peut espérer mieux de Kylian Mbappé également? Et puis on aura également l'avis tranché d'Elton qui nous expliquera que battre l'équipe de France aujourd'hui, le plus gros défi du football en sélection. Teasing. Et puis le Portugal également, si vous voulez parler de Cristiano Ronaldo et de la gestion de Roberto Martinez, ce sera l'avis tranché de Kevin Diaz. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
Avec Ricardo Fati, avec Kevin Diaz, Elton Mokolo, avec vous également au 32-16. Vous êtes nombreux sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Foot. On vous remercie d'être avec nous. On est en plein débat. Équipe de France, les Bleus qui affronteront le Portugal dans 2 jours. Ce sera le quart de finale de l'Euro. On sera avec Hichem dans un instant. Juste avant ça, les gars, il y a le deuxième tour de Wimbledon qui se joue aujourd'hui. Et on a envoyé en Angleterre notre Eric Salio. Good evening, comme dirait Unai Emery. Comment il va, Eric?
Good evening, everybody. Comment ça va, les
How
amis?
How are you? Very fine, and you?
Ça va, Eric.
Good evening.
C'était une journée un peu fleuve, hein. Je vais essayer de rien oublier, parce que on avait pris un peu de retard hier, donc il y a eu des premiers tours avec 3 victoires françaises, Quentin Alice, Arthur Hinderknecht et Lucas Pouille. Il y a eu aussi une qualification pour le 3e tour, celle de Hugo Humbert, qui jouera donc Nakashima dans 2 jours. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Lucas Pouille qui jouera Kokkinakis demain. Kokkinakis qui vient d'éliminer à l'instant Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 17. Et donc, le cours numéro 2 est libre pour le choc des vieux, entre guillemets, hein, bien sûr. Stan Wawrinka et Gaël Monfils. Mais chez nous, il est 19h18. Mais le cours 2 est très glissant déjà. Je pense qu'ils vont pas jouer très longtemps. Mais sur le central, j'ai un vrai match avec le toit, l'éclairage. Ah. C'est le derby transalpin entre Yannick Sinner et Matteo Berrettini. C'est parti depuis une vingtaine de minutes et il y a 4 jeux partout. Ça, c'est un sacré match.
Merci beaucoup, Eric. Et tu reviens quand tu veux. On revient vers toi tout à l'heure pour prendre des nouvelles de ce deuxième tour de Wimbledon. On va accueillir Hichem, les gars, pour le débat équipe de France. Il nous a appelé pour évoquer la question qu'on posait. Comment remplacer Adrien Rabiot face au Portugal? Salut, Hichem.
Salut tout le monde, bonsoir.
Ça va Hichem ?
Salut Hichem.
Ça va, nickel et vous ?
Bah, ça va. Bon, tu fais quoi dans deux jours à la place de Dédé en l'absence de Rabiot ?
Franchement, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Ricardo au début de l'after. Donc moi j'aimerais voir un peu plus de créativité. Après on va nous dire c'est vrai, c'est Deschamps, ça fait 12 ans, c'est toujours pareil. Mais franchement, moi si je mets Kamavinga, je ne mettrai pas Griezmann. Moi j'ai vraiment pas envie de voir un milieu à 4. Comme les derniers matchs, en fait, j'ai envie de voir plus de buts, plus d'animation offensive. On a quasiment pas marqué, comme vous l'avez évoqué. On a marqué un but sur penalty, 2 CSC. Donc, franchement, moi, soit je mets Kamavinga, mais je mets pas Griezmann, ou sinon je laisse Tchouaméni avec Kanté. Si je mets Griezmann, mais je mets un peu plus. J'aimerais bien voir un peu plus Barcola. Coman également, qu'on n'a pas beaucoup vu. Je crois qu'il a fait une seule apparition.
Alors Coman, c'est un cas, c'est bizarre. Lui.
Ouais. Franchement, on a vu en interview, il dit qu'il se sent bien, qu'il aimerait apporter quelque chose. Donc voilà, j'aimerais vraiment voir plus des joueurs offensifs et sortir un milieu de terrain qui ont pour moi presque tous le même profil. Après... Enfin, à peu près le même profil. Donc du coup, franchement, j'aimerais voir un Deschamps qui prend un peu de risque. Ou à la limite, comme je disais, sinon, vraiment, si on met Kamavinga, mais on ne met pas Griezmann.
Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a bien évidemment envie de voir une équipe plus pétillante, entre guillemets. Après, Kevin l'a bien répété, Elton aussi. Voilà, prime à la solidité, prime, on va dire, au pragmatisme de Deschamps. Et juste une petite parenthèse, Nico, parce que, bien évidemment, on lit aussi les commentaires sur le chat. Quelques personnes ont dit comme quoi la France ne fait pas peur, arrêtez de vous fourvoyer. Kevin l'a bien dit, on le redit. Moi, je peux te le dire en tant qu'ancien joueur. Une équipe solide, une équipe qui arrive à gagner malgré on va dire ce manque de créativité, ce manque de jeu, crois-moi, elle fait peur aux équipes. Et franchement, l'équipe de France, en effet, elle fait peur. Mais c'est pour cela, on va encore une fois laisser ça entre les mains de Dédé. Et nous, on va pas subir, parce que c'est trop dur de le dire, subir, mais on va attendre et on va voir.
On subit quand même un peu en voyant le match de l'équipe de France. Ouais. C'est vrai qu'on fait peur, il n'y a pas de souci. Mais on subit quand même parce qu'on est frustré. Moi, personnellement, même après les victoires, on est un peu frustré parce qu'on aimerait voir du jeu avec les qualités qu'il y a dans cette équipe de France. On aimerait voir un peu plus de beau jeu. Et du coup, c'est vrai qu'on subit quand même. Là, si par exemple, il nous repart sur un milieu de terrain plus Griezmann, moi, personnellement, je serais déjà frustré dès le début de match. Je me dis, ça va être encore un match solide, un match pour les défenseurs, un match. On va atteindre un petit but venu de nulle part ou ça va se finir au pénalty. Alors qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut vachement faire...
Ouais, mais du coup, Hichem, je peux te poser une question directe. Dis-moi. Est-ce que l'ajout d'un offensif, ça te garantit une meilleure expression sur le plan offensif ?
Non, pas forcément. C'est une prise de risque.
Bah oui,
c'est
une prise de risque. La prise de risque, faut privilégier aussi la compétitivité parce qu'en fait c'est l'éternel problème. On a tout essayé, j'ai le sentiment du côté de l'équipe de France sur ce début de tournoi, on a essayé cette formule avec les offensifs, ça a pas marché et du coup on est reparti sur un autre système qui n'a pas nécessairement non plus marché parce que tu n'as pas gagné. Et quand bien même t'as été solide, et du coup du côté de l'équipe de France, pour moi c'est la première fois que j'arrive sur un tournoi de l'équipe de France sur un chantier offensif de telle ampleur, t'es dans une impasse.
Ouais, mais tu vois, je pense que le match, moi, qui à mon sens, pose le moins de questions à Didier Deschamps depuis le début de l'Euro, c'est celui-là. Parce qu'il sait que pour la première fois, il va avoir une équipe qui veut avoir le ballon, qui va avoir le ballon. Et finalement, de se dire, si je mets que des mecs défensifs au milieu de terrain, que je joue vraiment le contre, vraiment à la caricature de ce que Deschamps a pu lui proposer parfois, pour lui, c'est le plan idéal. Lui, il va être là, il va bétonner, il va attendre, partir en contre, et il attend que ça,
et
je pense,
Deschamps. De toute façon, moi, je le dis, je le répète, mais on peut mettre n'importe quel système en place, si derrière, il n'y a pas l'animation qu'il faut.
Exactement.
Si derrière, tu peux mettre 2, 3, 4, 5 offensifs. Si derrière les joueurs.
Tu l'as vu le cas avec la Belgique qui a mis 5 offensifs pour ce qu'ils ont fait, ça a été complètement raté.
Si le gars il sait pas où courir, si le gars il sait pas dans quel espace, quel espace il doit libérer et surtout quel est le joueur qui doit prendre cet espace, et on le sait, c'est pas une critique, je pense que c'est un fait établi. L'équipe de France du Didier Deschamps, les attaquants jouent à l'instinct d'un Griezmann au prime entre 2016 et 2020, ensuite entre 2018 et 2020. 24. Maintenant, c'est on attend un exploit de Kylian Mbappé ou éventuellement d'un autre, mais sinon on est bien en place. Et comme dit Daniel, je répète, il va y en avoir une.
Ouais, mais il s'en est jamais caché, Deschamps, parce qu'il a toujours dit que l'animation, c'est les joueurs qui la définissent, et qu'en gros, le talent est plus important que le système, que le tableau noir.
C'est aussi beaucoup plus facile pour l'entraîneur.
C'est aussi beaucoup plus facile pour l'entraîneur de dire que le
talent va régler le problème, et que c'est pas l'entraîneur qui est au tableau noir, ou en étudiant l'adversaire, ou à partir du moment où t'as un tel réservoir de joueurs, tu peux considérer que c'est le talent qui va régler le problème. Par contre, si t'es sélectionneur de la Slovénie, de la Slovaquie, le talent, il va pas te faire régler le problème. Donc il va falloir que tu proposes autre chose. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui l'équipe de France, c'est une équipe qui fait peur quand même, ça c'est sûr. Et elle fait peur par sa solidité, parce que c'est une équipe qui a peut-être le meilleur gardien de la compétition quand il est à 100%, ou j'en suis même persuadé, quand il est à 100%, qui a une énorme charnière centrale, ouais, notamment avec Upamecano qui est bon depuis le début, et Saliba qui est peut-être le meilleur défenseur d'Angleterre sur la dernière saison. Koundé qui est quand même
d'ailleurs, je pense que tu auras les deux meilleurs défenseurs de PL face à face, hein. Entre lui et Diaz, Ruben Diaz en face, ouais, et Saliba, Ruben Diaz, t'as quand même.
Donc voilà, après au milieu de terrain, t'as un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du foot en la personne d'N'Golo Kanté. Quand il est apte à jouer, c'est clair pour moi. En tout cas, sur les 20 dernières années, il n'y a pas de débat. T'as un Adrien Rabiot qui est excellent, et t'as Antoine Griezmann qui est un joueur très très polyvalent, accompagné d'un Aurélien Tchouaméni qui joue quand même au Real. Et sinon, c'est un autre joueur du Real en la personne de Camavinga. Donc une fois que je t'ai égrené comme ça, 80% de l'équipe. Ah, tu te dis que, en effet, être bien en place et attendre le talent de joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste, ça peut suffire. Parce et ça suffit gros, depuis, gros, depuis 12 ans, ça suffit en tout cas.
Ouais, mais parce qu'en gros, on était dans une situation où à l'entrée de la surface, t'as eu énormément de spots. Et en fait, en étant dans cette situation basique, tu dis que la probabilité d'avoir un tir dévié, d'avoir un CSC, elle va arriver. Parce que, en gros, t'es toujours dans une situation où t'es dans l'initiative et t'es dans les derniers mètres adverses. D'ailleurs, et c'est ce qui s'est passé.
D'ailleurs, je vous donne une stat, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a un journaliste anglais qui a donné les XG des 8 équipes qui sont qualifiées en quart de finale de 7 euros. Et par exemple, la France et le Portugal ont exactement le même nombre d'XG. C'est 4,3 depuis le début de la compétition. Donc c'est quand même assez... On pourrait se dire finalement l'équipe de France est moins
classée à quel niveau?
Alors justement, alors c'est ça que je vais vous le donner tout de suite d'ailleurs. C'est assez marrant parce que il y a les deux parties tableau, vous savez, donc la partie forte, on va dire, où il y a Espagne, Allemagne, France, Portugal. Espagne 5-6 de XG, Allemagne 4-7, France, Portugal 4-3. Dans l'autre partie des quarts de finale, Pays-Bas 2.5, Suisse 1.3, Angleterre 0.4, Turquie -1.3. C'est-à-dire que t'as vraiment, en gros, t'as deux compètes dans la compète, quoi. C'est ouf quand même de voir ce truc-là. C'est assez rigolo.
Ça veut dire que la Turquie a marqué plus de buts
qu'elle n'aurait dû à la vue de la qualité des actions qui sont procurées.
Ça veut dire aussi qu'il y a plus de qualité et de talent d'un côté. En tout cas, quand tu vois le nombre de buts marqués par l'équipe de France, ils sont bien en dessous.
En sous-performance.
C'est en sous-performance. Et le truc, c'est quand même que l'équipe de France domine. Et un peu comme le Portugal, par exemple, le Portugal s'est heurté à des blocs très bas. Donc forcément, quand il y a un bloc très bas, il y a des XG qui sont moins hauts, puisque t'as souvent le ballon, mais quand tu tires, t'as 11 mecs devant toi. Et alors que quand tu joues en contre-attaque, souvent, ça peut être des face-à-face ou des choses comme ça.
Hichem, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, merci les gars, bonne soirée.
Merci Hichem, quand tu veux. Bisous, ciao Hichem. Dans un instant, dans un instant, on va parler de Kylian Mbappé. Peut-on espérer un meilleur Kylian Mbappé? Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses qui ont été dites, hein. Il joue avec le masque, ça le gêne, c'est horrible, a-t-il dit. On écoutera d'ailleurs Guy Stéphane, l'adjoint Didier Deschamps, qui s'exprimait là-dessus en conférence de presse aujourd'hui. On vous attend avec Elton Mokolo, avec Kevin Diaz et avec Ricardo Fati sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After, Intégral Euro,
Nicolas Villas.
20h29, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à minuit, comme d'habitude, le 32-16 est ouvert, le chat de la chaîne YouTube de l'Afterfoot également est là. On est en train d'évoquer, de se lancer dans le quart de finale de l'équipe de France de vendredi face au Portugal, ce sera Hambourg, coup d'envoi à 21h. Rabiot sera suspendu, on vient d'en débattre, on vous a posé la question, comment l'équipe de France doit jouer sans Rabiot. Il y a aussi des doutes sur l'animation offensive des Bleus face aux Portugais. Alors l'absence de Rabiot pourrait conditionner le positionnement de Griezmann, on l'a évoqué tout à l'heure. Le retour de Dembélé dans le couloir, avec Mbappé à gauche ou dans l'axe, voilà, c'est l'une des possibilités. Du coup, dans l'axe, possibilité Colomouani ou Thuram. Et la question derrière ça, c'est peut-on espérer un meilleur Mbappé? Alors, il est gêné par son masque, il a marqué son pénalty face à la Pologne, c'est vrai. Et Guy Stéphane était en conf de presse aujourd'hui et il a défendu Griezmann, le jeu des Bleus et Kylian Mbappé.
Alors, Kylian, je pense qu'on a un peu tous minimiser son traumatisme, sa fracture du nez. Ça n'explique pas tout, je suis d'accord, mais le choc qu'il a eu, il est très traumatisant. Et il joue actuellement avec un masque. Pas facile de jouer avec un masque, sinon tout le monde jouerait avec un masque. Il a eu une fin de saison un peu éreintante peut-être, mais Kylian reste Kylian. Kylian, c'est, je vais pas vous raconter tous les buts qu'il a marqués, le nombre de buts qu'il a marqués. Depuis l'Euro 2021, je crois qu'il est quasiment à un but par match avec nous. Ça reste un joueur top, top, top niveau. Il est très présent, très rassembleur dans tout ce qu'il peut amener dans la préparation.
Alors, on a fact-checké hein, pour regarder cette fameuse stat qu'évoquait Guy Stéphan, et il a raison. Depuis l'Euro 2021, en équipe de France, Kylian Mbappé, c'est 31 buts en 34 matchs. Oui, mais l'année où il est le moins performant, c'est la dernière. C'est-à-dire que là, il a marqué 2 buts sur les 7 derniers matchs avec l'équipe de France. Est-ce qu'on peut espérer un meilleur Mbappé? Alors, certains diront que c'est des excuses. Moi, je dirais que c'est plutôt des explications. Mais c'est vrai que ce que dit Stéphan, à savoir le masque, etc., c'est des choses qui peuvent expliquer peut-être le fait qu'ils soient moins performants.
Nico, au final, moi, je dois écouter qui? Je dois écouter Guy Stéphan ou Kylian Mbappé?
Parce que tu as dit qu'il allait bien?
Non, mais parce que Kylian Mbappé, avant le match contre la Belgique, conférence de presse, il nous explique, il nous dit clairement que le masque ne sera pas une excuse.
Non, mais il a dit que c'était horrible de jouer avec aussi.
Oui, c'était horrible, mais il nous a dit que...
C'est pour ça que je te dis, c'est pas une excuse, c'est une explication.
D'accord, donc à ce moment-là, on fait quoi? On met Kylian Mbappé sur le terrain ou on ne le met pas? Parce que si c'est une question qui est légitime, c'est une explication qui est légitime, et je l'entends parfaitement, à ce moment-là, on se passe de Kylian Mbappé. Mais on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que Kylian Mbappé, à côté, il te dit, ça ne servira pas d'excuse. Donc aujourd'hui, moi, je veux bien que Guy Stéphan avance cette explication, mais excuse-moi. Quand Kylian Mbappé, il demande le ballon arrêté toute la rencontre, c'est pas une question de masque, c'est une question de mentalité. Et ça, j'ai pas attendu Kylian Mbappé avec un masque pour le voir. Je l'ai vu toute la saison du côté du PSG. J'ai pas vu Kylian Mbappé faire un appel dans le dos de la défense adverse. Donc c'est pas pour expliquer aujourd'hui que le masque conditionne grandement son match.
Les masques tombent, les gars, ce soir. Tu dirais quoi, toi? C'est vrai, est-ce que Elton, il a pas raison quand il dit que finalement il est peut-être dans la continuité de sa saison aussi avec le PSG?
Non, moi je pense que c'est entre les deux. C'est entre les deux. Kylian Mbappé, il a connu une saison tronquée, on le sait. Aujourd'hui, Dieu sait que j'ai pas toujours été tendre avec Kylian Mbappé, mais ça reste un joueur, comme l'a dit Guy Stéphan, de classe mondiale quand il est prêt. Malheureusement, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, et maintenant, au niveau de sa vision, moi je l'avais trouvé très bon avant de se blesser contre l'Autriche. Je l'avais trouvé assez frais, il s'était créé des occasions, certes il n'avait pas marqué, mais qu'il semblait parti sur un très très bon euro. Maintenant, je pense quand même que cette blessure au nez l'a clairement freiné. Donc c'est clairement pas son année. Donc il a quand même marqué beaucoup de buts en Ligue 1, mais c'est vrai que moi son attitude de vouloir avoir tout le temps les ballons dans les pieds, de vouloir faire du, je sais pas si on peut dire qu'il fait du Neymar, mais en tout cas moi déjà j'ai jamais compris pourquoi il voulait le numéro 10. Pour moi, j'attache énormément d'importance au numéro que tu choisis. Pour moi, Kylian Mbappé ne sera jamais un numéro 10, je ne comprends
plus,
même.
C'est plus ta symbole.
Non, il y a pas de symbole. C'est ton numéro, c'est pas ton numéro. Pour moi, c'est pas son numéro.
C'est quoi ton numéro, toi?
Moi, mon numéro, c'est le 11. Il est gauche, c'est le 11.
Et toi, Ricky?
Moi, c'est le 14.
Parce que t'es remplaçant?
Remplaçant, mais Thierry Henry aussi, surtout.
Ouais. Tu mets quoi, Elton, toi?
Moi, c'est le 14.
Toi aussi? Ah, mais là, il y a bagarre.
Le numéro
là,
des non, puristes.
Il y a bagarre.
Au CAP Charenton, j'avais le 14.
Ah ouais, bah ok, ça arrive,
tu vois.
Ouais.
Donc non, mais je veux dire tout simplement que Kylian Mbappé, ça reste un joueur qui a été en difficulté cette saison avec son club, que ce soit sûr, mais surtout en dehors du terrain, et qu'il a été sur un très bon euro avant de se blesser. Ce n'est pas une excuse, mais moi j'entends que le masque, ça doit être insupportable, surtout pour un joueur quand même qui a besoin d'avoir une vision parce qu'il va 2000 et donc que c'est très très compliqué de voir ce qui se passe autour. Maintenant, c'est clair que le Kylian Mbappé qu'on a là, c'est pas le Kylian Mbappé d'il y a encore 12 ou 14 mois quand il n'avait pas eu ses problèmes en club.
Il y en a un qui est d'accord avec toi sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, Elton. C'est Mani qui nous dit faut arrêter avec le masque, Mbappé dans la continuité de la saison au PSG. Tu dis quoi toi, Ricardo?
Alors oui et non, alors c'est vrai, c'est une réponse assez assez chiante,
mais c'est convenu.
Mais ouais, mais ça c'est la vérité.
Et mouille-toi un peu, Ricky.
Non, mais Nico, sincèrement, moi franchement, je peux vous le dire, jouer avec un nez cassé, jouer avec des problèmes au nez, crois-moi, c'est très très compliqué.
Oui, mais alors comme dit Elton, si vraiment c'est pas bon et qu'il est pas bon, on le met pas. Attends, alors, non.
Après c'est Kylian.
C'est Kylian. Et si c'est pas Kylian, mais c'est pas Kylian.
Pas jouer.
Mais c'est pas Kylian.
Aujourd'hui la question se pose.
Forcément, mais après Kylian sur le terrain, c'est vachement différent que qu'un autre joueur, même s'il est amoindri. Après Kylian, il a aussi des responsabilités. Il se doit d'être sur le terrain, bien évidemment, tant qu'il soit performant. Mais ok, c'est pas une excuse, on peut le dire, y a pas de souci. Mais le fait de jouer avec un masque, avec un nez
un dégommé, je te promets que c'est très très compliqué. Si ce n'est vrai que pour la respiration, c'est
atroce. Mais alors on fait quoi alors?
Non, mais après il doit jouer. Mais après oui, après mon côté oui, c'est vrai que Eton l'a bien résumé. Kylian, il a maintenant adopté un style de jeu qui n'est pas compatible en fait avec même ses qualités, avec ce qu'il peut apporter. Maintenant, il est trop lisible dans son jeu. Et c'est ça le gros problème. Il n'est pas vraiment dans l'axe, il n'est pas sur l'aile, sur le côté pour provoquer. Il est dans une sorte de demi-espace, une zone de densité très compliquée. Et puis, comme forcément, avec le style de Deschamps, on est à la recherche de l'exploit
continuellement.
Ouais. Constamment avec Kylian, donc forcément on est frustré et lui-même se frustre aussi. On le voit aussi forcer son jeu et il retombe dans les travers lui qu'on a vu au PSG post Neymar, post Messi, parce que c'est lui qui avait tout sur les épaules, qui était surperformé et ça retombe malheureusement sur lui.
On va accueillir Anthony qui nous a appelé au 32-16. Salut Anthony.
Salut à tous.
Anthony porte quel numéro lui du coup?
Salut Anthony.
C'est quoi ton numéro, Anthony, au foot, toi?
C'est quoi mon numéro? Ah, moi, c'est le numéro, plutôt numéro, ouais, entre 6 et 8. Plutôt
boxe. Il est là, toi. Il est là, il est dans le cœur du jeu, là, Anthony.
Ouais, du coup, t'es un numéro 7. Alors. Gattuso, quoi.
Ah, comment on dit, un téléquartiste, non, c'est ça, non? Non, c'est plus offensif, ça, non?
C'est un
Régista, voilà, c'est ça, cherche.
6 et 8, c'est le 7, non?
Excellent, j'aime beaucoup ça. Entre 6 et 8, c'est 7, j'aime bien.
C'est pragmatique.
Alors comment tu le trouves Kix là? C'est quoi le problème?
En fait, enfin je pense qu'il y a plusieurs explications. Évidemment ça date pas cet euro là, on voit bien que depuis 7-8 mois il y a un problème, même au PSG il avait un problème. Je trouve que c'est plutôt une crise de confiance en fait. Et je pense que ça s'explique par plusieurs choses. Bon déjà, on va parler de son extra sportif avec Nasser, tous ces problèmes là, mais je trouve que dans le jeu je vais pas mettre la faute sur les partenaires, mais je trouve que il manque de bons ballons. Et autant à l'époque, quand et je ne veux pas revenir sur l'époque Messi, etc., mais il y avait quand même des joueurs qui étaient capables de lui donner les bons ballons dans le bon tempo, dans le bon espace. J'ai l'impression que cette année au PSG, il y a une faillite de ce côté-là. On avait bien sûr des Dembélé, des Barcola qui étaient capables de déborder, qui étaient capables d'apporter le danger, mais dans l'avant-dernier geste, dans les passes décisives, il n'en a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent. Bah. Et donc, forcément, il a eu quelques petits ballons où il a raté, du coup ça le met en manque de confiance. En équipe de France, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème. En Antoine Griezmann, c'est quand même son rôle aujourd'hui, il est complètement lui aussi pour le coup, lui je sais pas, ça doit être un déficit physique aujourd'hui, mais je trouve qu'il manque de bons ballons et les peu d'occasions qu'il a, il les rate. Ce qu'il rate contre l'Autriche l'autre jour, pour moi c'est pas un problème technique, évidemment il est capable de la mettre 10 fois, peu importe, à gauche, à droite, fermé, ouvert, mais je trouve que c'est clairement un problème de confiance.
Anthony, après c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que pour avoir les bons ballons, il faut aussi faire les bons appels.
Exactement.
Et si Mbappé il demande les ballons constamment dans les pieds ou constamment vouloir combiner ou chercher l'exploit, forcément c'est plus la même chose, c'est plus la même animation naturelle qu'on voit.
Mais t'as dit un truc tout à l'heure et on en a beaucoup débattu au cours de la saison quand il était au PSG, Kylian Mbappé. Mais est-ce que son jeu, il est pas en train d'évoluer aussi? Est-ce qu'il a pas du mal finalement à prendre un virage où il est peut-être moins explosif qu'il était à un moment? Il y en a qui ont su le faire. Messi l'a fait d'une certaine façon. Cristiano Ronaldo l'a fait aussi. Oui. Mais est-ce que Mbappé, il est pas là justement à un virage, à un tournant où il doit finalement s'y adapter?
Aujourd'hui, il est surtout dans une impasse. Je suis incapable de te définir le joueur Kylian Mbappé aujourd'hui.
Bah justement, donc on y est.
Et ça, c'est un problème parce que évidemment, il pourra toujours capitaliser sur le fait que c'est un assassin devant le but, parce qu'il a encore des stats qui sont éloquentes. Mais par contre, sur le joueur, je suis incapable de te définir le joueur. C'est un joueur qui a la croisée des chemins, comme tu l'as dit. Est-ce que vaut mieux le replacer dans l'axe? Est-ce qu'il faut qu'il reste sur le côté gauche? Mais en même temps, sur le côté gauche, il fait pas nécessairement beaucoup d'appels. C'est très difficile de définir le joueur Kylian Mbappé, parce que il y a quelque chose d'incohérent dans le fait que on n'arrive pas à définir le joueur, mais le joueur reste quand même compétitif jusqu'à un certain
voire
point.
Voire indispensable, non?
C'est indispensable. Indispensable. Et pour revenir sur ce que disait Anthony, je fais d'accord, il ne reçoit pas de bons ballons, mais Kylian Mbappé définit, conditionne les mouvements de ses coéquipiers.
D'accord avec toi, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Excuse-moi, c'est parce que finalement, j'ai l'impression que le fait qu'il se dise qu'il ne sera pas capable de recevoir un bon ballon dans l'espace, comme le faisait à l'époque un Messi ou un Neymar ou d'autres joueurs, même qui sont en confiance, du coup, il se dit, un Berratti par exemple, il se dit, je vais peut-être la recevoir dans les pieds, moi je suis sûr que je vais la prendre sur moi, et après, à moi de faire la différence. Et là, le problème, c'est qu'en effet, à côté de ça, j'ai l'impression qu'aussi, physiquement, il est moins capable de faire la différence. Et forcément, jouer tout seul aujourd'hui.
Oui, c'est sûr que l'aspect physique, notamment sur sa qualité fondamentale, qui est la vitesse, c'est quelque chose qui est important. Moi, j'ai, J'ai un ami, Eric, que je salue, qui m'envoie une stat comme quoi il n'est même pas dans les 6 joueurs les plus rapides de l'Euro, et même en France, en Ligue 1.
Alors que c'était l'un des plus rapides il y a encore un ou deux ans.
Peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion, même si. Alors c'est un joueur qui va toujours vite, hein, on ne dit pas qu'il est lent, mais c'était quand même. Il poussait.
Mais d'où la question, est-ce qu'il ne doit pas finalement se réinventer finalement quelque part?
Non, mais il ne pourra pas se réinventer.
D'autres l'ont fait,
moi je l'ai toujours dit. Après, il y a un moment, Kylian Mbappé, il ne devait pas s'inspirer de Messi, Ronaldo, je ne sais qui, devait s'inspirer Thierry Henry dans sa carrière. Parce que Thierry Henry, voilà, il a déjà une carrière extraordinaire. Et en plus, il a été champion du monde tôt comme lui. Il avait les mêmes qualités de vitesse, d'explosivité, voire de finisseur comme lui. Et par contre, il a réussi à devenir un joueur un peu plus collectif en allant dans un choix de club. Mais comme vient de faire Kylian Mbappé, où il allait ne pas être seul pour aller gagner des trophées. Mais aujourd'hui, en équipe de France, on se repose beaucoup trop sur la qualité de vitesse, de percussion. Mais aujourd'hui, on voit que ce soit Dortmund, que ce soit, vous vous rappelez de ce match contre Monaco il y a deux saisons, où Monaco avait très très bien pris Mbappé à 2, à 3 au Parc des Princes et il s'était imposé. Et ben, cette équipe et ces joueurs, et ben, aujourd'hui, ils sont de mieux en mieux analysés, ils sont de mieux en mieux contrés.
Merci Anthony d'avoir été avec nous.
Bah merci à vous, c'est un plaisir.
Merci, merci mon gars, tu reviens quand tu veux. Dans un instant, avis tranché d'Elton Mokolo. Pour qui battre cette équipe de France est le plus grand défi donné à une équipe dans le foot de sélection. T'as rien que l'intitulé gros, je me dis waouh. Il va nous expliquer
sur une thèse,
antithèse, conclusion, voilà, synthèse. On vous attend au 32-16 avec Elton Mokolo, Kevin Diaz, avec Ricardo Faté et puis supporter du Portugal. On vous attend également à vie tranchée dans la foulée à venir à 21h de Kevin Diaz, pour qui Roberto Martinez fait n'importe quoi dans la gestion du cas Cristiano Ronaldo. Vous allez voir qu'au Portugal, ça commence à faire énormément de débats également. On vous fera écouter notamment l'extrait d'une émission de télé, et je peux vous dire que ça envoie. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
Avec Elton Mokolo, Ricardo Fati, avec Kevin Diaz. Vous le savez, vendredi 21h à Hambourg, quart de finale de l'Euro entre la France et le Portugal. Un match qui a inspiré un avis tranché à Elton. Jingle.
Quand Serge Aurier, t'as la moutarde qui commence à lui monter au nez et qui commence à rentrer justement dans cette idée, on va commencer à mettre des coups, Emerson Aller fait.
Et comme écrit d'ailleurs Seb sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, tout de suite à venir, thèse, antithèse, barthèse, bien sûr. Alors Elton, pour toi, battre l'équipe de France, c'est le plus gros défi du football de sélection aujourd'hui.
Exactement, j'en suis convaincu et cet avis tranché m'a été inspiré par Kevin De Bruyne. Parce que j'ai écouté Kevin De Bruyne dans Zone Mix.
En mode vénère après le match, après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver. Il a surtout avancé l'idée que, en gros, la compo a été dessinée pour justement laisser le ballon à l'équipe de France. Et moi, ça m'a quand même étonné parce que, au final, t'avais quand même beaucoup d'offensifs du côté de la Belgique. Et en fait, ça traduit une certaine crainte, une certaine peur des adversaires par rapport à l'équipe de France. Parce que, aujourd'hui, en 2024, je suis convaincu que, il y a le fait de jouer un match de Coupe du Monde, un match d'Euro, et il y a surtout le fait de jouer un match de Coupe du Monde, un match d'Euro face à l'équipe de France. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et moi, j'en veux pour preuve ce qu'ont fait les Pays-Bas, ce qu'ont fait l'Autriche et ce qu'a fait récemment la Belgique. L'Autriche, c'est bien simple, c'est 6 tirs face à l'équipe de France, son plus faible total de la compétition. Les Pays-Bas, c'est 8 tirs face à l'équipe de France, son plus faible total de la compétition.
On va se régaler aujourd'hui.
La Belgique, c'est 5 tirs, son plus faible total en compétition officielle depuis 1990. Voilà ce que peut inspirer l'équipe de France, c'est cette crainte, c'est cette idée que...
Wiki Elton.
Opta Elton.
Voilà ce que peut inspirer l'équipe de France, c'est cette idée que, à mesure où les minutes, les secondes défilent, à chaque fois, ça favorise l'équipe de France parce que, à un moment donné, ils vont faire la différence et qu'en match éliminatoire, c'est très difficile de les prendre de revers. D'ailleurs, les faits sont têtus. Les deux dernières éliminations de l'équipe de France, c'est au tir au but, contre la Suisse et contre l'Argentine, à chaque fois en Coupe du Monde. Et la dernière défaite.
Ce qui n'est même pas comptabilisé d'ailleurs comme une défaite. Ce qui est même pas nul.
Ce qui est même pas comptabilisé.
C'est une élimination, mais.
Et la dernière défaite de l'équipe de France en 90 minutes sur un tournoi éliminatoire, d'ailleurs, c'est pour la symbolique qu'on va fêter demain, c'était le 4 juillet 2014 face à l'Allemagne. Voilà ce que représente l'équipe de France, cette capacité justement à rentrer dans le crâne de l'adversaire. Et moi, c'est pour ça que je suis convaincu que l'équipe de France sur l'Euro 2024, quoi qu'on en dise, est l'équipe la plus compétitive de cette compétition, la plus compétitive de cet Euro, parce que à mesure où ils vont avancer à chaque tour, moi j'aurais le sentiment que l'équipe de France va se rapprocher de la victoire et que l'équipe en face, l'équipe adverse va se dire qu'à chaque fois qu'ils vont affronter l'équipe de France, tu auras un double défi. Passer un tour et battre l'équipe de France. Ce sont deux choses qui sont très difficiles. Et c'est pour ça que pour moi, battre l'équipe de France, c'est le plus gros défi du football de sélection.
Et alors, moi, je vais même aller plus loin que toi. Je vais dire, c'est battre l'équipe de France de Didier Deschamps. Je suis allé mater les stats. Sachez que demain, ce sera le 150e match de Deschamps à la tête de l'équipe de France. 98 victoires pour l'instant, 30 nuls, 21 défaites. Et là où c'est impressionnant, c'est dans les phases finales Euro Coupe du Monde. En 19 matchs de Coupe du Monde, il compte 2 défaites. En 15 matchs de phase finale de l'Euro, c'est une défaite et c'est en prolongation 2016 en finale contre le Portugal.
C'est surtout 12 victoires en match éliminatoire.
Il y a
un total qui est extraordinaire. Extraordinaire.
Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je disais que cette équipe de France, elle fait peur. Mais je rajouterais que le plus gros défi des adversaires de l'équipe de France, c'est surtout de ne pas perdre dans les 90 premières minutes. Parce que l'équipe de France ne s'est jamais qualifiée, sur toute la période dont tu as parlé, après les 90 premières minutes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours soit perdu en prolongation face au Portugal, soit au pénalty, comme tu l'as dit, face à la Suisse et face à l'Argentine. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de France qui fait peur. C'est une équipe de France, par contre, qui n'est pas imbattable ou inéliminable. C'est une équipe qui est bien sûr sûre de sa force. Sa force, elle est défensive. C'est aussi pour ça qu'ils vont très loin. C'est parce qu'ils proposent pas grand-chose, je le pense sincèrement. Et aujourd'hui, par contre, ils ont une telle capacité à avoir des talents, à avoir aussi un manager quand même qui manage très bien son groupe, qu'en effet, c'est très très difficile et que face à ce genre d'équipe, comme le disait Ricardo, quand tu joues face à ce genre d'équipe, que ce soit dans un tournoi ou dans un championnat, eh ben, tu sais que c'est comme quand tu joues contre l'Atlético Madrid, vaut mieux pas qu'ils t'en mettent un parce que sinon t'es mort. Et donc, quand tu joues avec cette crainte et cette peur, eh ben, c'est très très difficile de se lâcher pour les adversaires, que ce soit la Belgique, que ce soit les Pays-Bas. Et ce genre d'équipe, ce sont toujours des équipes quand même qui souvent ne marquent pas en début de match, par exemple. Parce que si tu marques un but à l'équipe de France, là, elle doit sortir et là, elle peut être en difficulté. Mais comme l'équipe de France joue de façon très solide, c'est souvent dans les derniers tiers des matchs qu'elle arrive à faire la différence parce que soit il y a une faille, soit il y a un tir contré, soit il y a un pénalty, soit il y a quelque chose qui fait que... Mais en tout cas... C'est vrai que j'aimerais pas être un adversaire et jouer contre la France.
Et c'est pour ça que je suis inquiet, notamment pour le Portugal, parce que l'équipe qui arrivera à battre l'équipe de France, ça sera une équipe qui sera capable de jouer un match indépendamment de ce que peut faire l'équipe de France. C'est une nuance, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que, en gros, si t'es conditionné par l'idée que l'équipe de France, à tout moment, peut te mettre le but via Kylian Mbappé, via Antoine Griezmann, pour moi, t'as déjà perdu le match.
Mais le plan de jeu des Pays-Bas, par exemple, contre la France, il était clair.
Il était cohérent.
Exactement. Il était clair.
Bah oui.
Et je sais pas s'il était cohérent parce qu'il a pas trop plu. Mais en tout cas, il a pas trop plu là-bas, mais il était clair, laisser le ballon à l'équipe de France. Ils voulaient laisser le ballon à l'équipe
comme
de France
la Belgique.
Parce qu'ils savent
que c'est pas dans deux jours, c'est ce qu'on aura, mais
je dis pas que c'est
non, mais je pense
que le Portugal peut aussi laisser le ballon, ils sont pas plus bêtes que les autres. Ils voient bien que l'équipe de France avec le ballon.
Mais ça veut dire que l'autre, il doit révolutionner son 11, tu vois. Il a pas aujourd'hui l'équipe, sur les équipes qu'il aligne ces derniers temps, c'est plutôt une équipe joueuse qu'on a. J'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, la façon de jouer du Portugal, c'est du pain béni pour l'équipe de France, surtout celle qui va mettre en place.
On s'est tous dit pendant Portugal-Slovénie, quand Sesko a 2-3 fois accéléré Pep, même si c'est une légende du foot, hein, il a plus ses jambes même pas de 30 ans. On s'est tous dit que si c'était Mbappé en face, ça allait faire mal.
Ouais.
D'ailleurs, Nico, moi j'ai une question pour toi. Toi, le Portugais, enfin un peu le connaisseur, est-ce que tu penses que la stratégie du Portugal, ce serait pas justement d'aller au tir au but après ce qu'on a vu au tour précédent? Non, mais c'est une question sérieuse. Hein, c'est vraiment. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'ils vont peut-être baisser un peu la
rythme?
Voilà, partir. Non, ou à contrario, aller à fond et puis pour jouer la victoire.
Sincèrement, vu ce que on va en reparler après plus longuement, mais vu ce que Roberto Martinez s'est mangé après le match contre la Slovénie, voir le match d'avant contre la Géorgie, même s'il avait fait tourner, à savoir possession stérile, pas de mouvement, etc. Il pourra pas se permettre de pas être dominateur et protagoniste avec les joueurs qu'il a. Je pense que si les Portugais se font sortir et qu'en plus ils ont relaissé le jeu à l'adversaire, là personne va capter. Alors que il est venu avec des grands discours. Alors après, surtout les supporters belges, ils en témoigneront mieux que nous puisqu'ils l'ont subi plus longtemps. Mais ils vont dire entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un gap. Mais il peut pas venir avec des grands discours où nous on est une équipe joueuse, on fait partie des candidats pour la victoire finale et dire bah non là c'est la France, on va leur laisser le ballon et jouer en contre avec les joueurs qu'il a à dispo. C'est pas possible. Je vois pas comment tu peux laisser le ballon quand t'as Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, même Palinha qui est un joueur athlétique mais hyper technique, etc. Raphaël Dianque qui est un joueur de percussion, mais
et latéraux offensif.
Voilà, et en plus, enfin, je sais pas, j'ai du mal à croire ça. Mais Et t'en penses quoi de la vie d'Elton? Alors t'es d'accord ou pas? Tu penses que le plus gros défi aujourd'hui, c'est de taper l'équipe de France pour une dans le foot de sélection?
Bah le plus gros défi.
Même cette équipe de France là, parce que la question est là aussi.
En fait, c'est de ne pas perdre simplement. C'est ce que je te disais, Nico. C'est de les emmener le plus loin possible. Les prendre à l'usure, d'être aussi, donc par définition, solide et espérer des tirs au but ou les prolongations, comme l'a fait la Suisse, comme l'a fait aussi
l'Argentine, en menant 2-0 sur une finale de Coupe du Monde.
Et ce que justement peut faire le Portugal avec leur gardien.
Parce que pour moi, on sous-estime quelque chose qui est très important, c'est la dimension psychologique. La dimension psychologique incarnée par l'équipe de France, c'est cette idée qu'on est sur un match d'usure. C'est un match vraiment contre la montre où l'équipe de France, quand bien même ils sont dépassés, quand bien même ils peuvent être menés au score, ils auront toujours en eux cette capacité de revenir. Et ça, pour l'adversaire, intégrer cette donnée, c'est pas forcément évident.
Je vous rappelle, un supporter du Portugal, on vous attend en 32-16 avant la vie tranchée de Kevin Diaz, pour qui Roberto Martinez fait n'importe quoi dans la gestion de Cristiano Ronaldo. Je vous donne juste une info qui concerne ce France-Portugal de vendredi, ce quart de finale de l'Euro. L'arbitre de la rencontre sera Michael Oliver, l'arbitre anglais de 39 ans, alors qui officiera pour la quatrième fois dans cet Euro. Ça a été l'arbitre d'Espagne-Croatie, 3-0 pour la Roja, de Slovaquie-Ukraine, l'Ukraine avait gagné 2-1, et du Allemagne-Danemark, où le Danemark s'était incliné 2-0. Le quatrième arbitre sera l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 2022, à savoir le Polonais Simone Marcignac. Je donne 2-3 stats concernant Michael Oliver. Souvent on dit les arbitres anglais laissent beaucoup jouer, etc. C'est l'un des arbitres en PL qui donne le plus de cartons, par exemple, qui siffle le plus de foot également. Michael Oliver, il a la dégaine.
Ouais, il a été dans plusieurs polémiques là récemment, par rapport à des faits de jeu où il aurait pu mieux faire. Donc par rapport à ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Ouais.
C'est vrai que je dis pour les deux équipes.
Notre producteur Jimmy Brown me le rappelle, le Allemagne-Danemark, c'était les histoires de l'assistance vidéo, etc. Donc,
ouais, c'est ça.
Effectivement.
Le fameux talon slash orteil qui dépasse.
Bah après, lui, là-dessus, il n'a plus que le règlement, j'ai envie de te dire.
Bien sûr, bien sûr.
C'est vrai que c'est sûr. Allez, on vous attend avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo, avec Ricardo Fati. Roberto Martinez fait n'importe quoi dans la gestion de Cristiano Ronaldo, supporter de Ronaldo du Portugal. De qui vous voulez, on vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC. Viry-Châtillon, Sucy-Ambry. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Rony Lopez. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. J'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
RMC, jusqu'à 22h. Génération After, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
Et Ricardo Fati, Elton Mokolo avec Kevin Diaz avec vous sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. On vous attend au 32-16 également. Vous avez écouté Thierry Henry, magnifique prod réalisé par nos magnifiques réalisateurs, bien sûr. On l'écoutera dans un instant, puisqu'il va devoir donner sa liste. Définitive pour les JO dès ce soir minuit, parce que c'est la deadline qui est imposée. Et on l'écoutera, il était en conférence de presse aujourd'hui, assez agacé puisqu'il a perdu un joueur qui ne sera pas libéré par son futur club, à savoir Khéphren Thuram. Il n'y a qu'une liste de 18 joueurs pour les JO, et en plus si d'autres joueurs signent dans un nouveau club et que le club décide de ne pas les libérer, il pourrait les perdre à quelques jours des JO justement. Et puis on vous rappelle également que vendredi il y aura le match, le quart de finale de l'Euro entre la France et le Portugal. Ce sera à suivre bien entendu sur RMC. On a disséqué, saigné les Bleus. Place à la Slessin, dont le sélectionneur Roberto Martinez et le capitaine Cristiano Ronaldo sont dans le viseur de Kevin Diaz. Avant d'avoir ton avis tranché, mon kéké, on va planter le décor. Je donne quelques données sur Cristiano Ronaldo. Contre la Slovénie, il a enchaîné son 8e match de suite sans marquer en phase finale d'un tournoi majeur. La dernière fois qu'il a marqué, c'était à la Coupe du Monde au Qatar, face au Ghana, la victoire 3-2. Au cours de cet Euro, c'est 20 tirs. Aucun joueur n'a plus tiré au but que lui au cours de cet Euro. Et donc, il a pas marqué. Il y a beaucoup d'articles, d'édito qui fleurissent dans la presse portugaise ces derniers jours. Alors, non pas tant d'ailleurs pour critiquer Cristiano Ronaldo, mais plutôt le fait qu'il soit titulaire, qu'il ait joué par exemple les 120 minutes face à la Slovénie. Et il y a une séquence qui fait pas mal parler au Portugal depuis hier. Coup de gueule de la journaliste Sofia Oliveira face à deux anciens joueurs, Diogo Luís et Dani, sur CNN Portugal.
Laissez-moi poser une question sur Cristiano Ronaldo, parce qu'on est en train de tourner autour du pot. Quelqu'un a-t-il un doute sur le fait que Cristiano Ronaldo n'est titulaire aujourd'hui en sélection que pour ce qu'on lui doit et pas pour ce qu'il est aujourd'hui? Quelqu'un a-t-il un doute là-dessus? Je n'arrive pas à comprendre. On est là à marcher sur des œufs avec Cristiano Ronaldo parce qu'il a réalisé une énorme carrière. Mais comme avait pour habitude de dire quelqu'un dans le monde du football, quand quelqu'un tape à ta porte, tu ne demandes pas qui il était, tu demandes qui c'est. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur pour être titulaire au sein de la sélection du Portugal. Point.
Et toi, tu vas te mettre en mode Sofia Oliveira maintenant, mon Kevin Diaz. Alors qu'il y a une journaliste qui est chroniqueuse notamment sur un site qui s'appelle.
C'est chaud quand même ça.
Alors en plus, ta séquence, elle dure plus d'une minute.
Ah ouais.
Et t'as donc Diogo Luiz et Dani qui d'ailleurs sont des très bons consultants. Les deux baissent tes yeux, sont très gênés parce qu'en fait, elle les interpelle. Et alors Diogo Luiz, à un moment, dit non, je suis pas forcément d'accord avec tout. Et la séquence, vous la retrouvez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, elle est assez forte. Avis tranché de Kevin Diaz, un peu dans la mouvance de ce qu'on vient d'entendre d'ailleurs.
J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis. Tu peux lancer la pub.
Quel cadeau celui-là. Ah, la punchline de boss. Alors pour toi mon kéké, la gestion de Roberto Martinez concernant Cristiano Ronaldo est catastrophique.
Oh Nicolas, comment est-ce possible? Tu m'as dit de faire comme...
comme Sofia, oui.
Comme Sofia Oliveira.
En VO.
Avec, d'ailleurs Oliveira qui est mon nom portugais. Mais aujourd'hui... Avant l'Euro, j'avais dit que pour moi, Ronaldo était quand même quelqu'un qui inhibait un petit peu ses partenaires. Et je l'avais noté déjà depuis plusieurs années maintenant. Et que ça posait un problème pour moi pour la sélection portugaise. Heureusement, le Portugal n'a pas été éliminé contre la Slovénie. Et Dieu sait que c'est passé tout proche. Mais aujourd'hui, le problème, c'est même plus de savoir si Ronaldo, par Ronaldo, inhibe les autres. Je pense que c'est clair. Aujourd'hui, le Portugal s'est qualifié avec un bon Ronaldo dans les phases de qualification.
Deuxième meilleur buteur, ouais.
Deuxième meilleur buteur, mais de toute façon, même sans Ronaldo, ils étaient aussi très bons. Ils ont gagné aussi sans lui et ils auraient aussi gagné sans lui. Et ils l'ont montré d'ailleurs en huitième de finale de la Coupe du Monde avec un grand Gonçalo Ramos. Bien sûr que Ronaldo peut encore servir pour le Portugal. Mais en aucun cas, il ne peut être titulaire indiscutable. Et surtout, puisque avec ce sélectionneur, c'est le cas, il est titulaire, certes. Moi, ce ne serait pas mon avis. C'est pas l'avis de cette journaliste et je pense que c'est pas l'avis d'une bonne partie des supporters portugais. Mais là où j'en veux un petit peu à Martinez, c'est qu'en fait, il nous oblige à égratigner la légende. C'est lui qui nous oblige par sa gestion calamiteuse du cas Ronaldo depuis qu'il est arrivé. C'est lui qui nous oblige à égratigner quelqu'un qu'on a adoré. Moi, j'ai pas envie de critiquer Cristiano Ronaldo. Il a toujours la grinta, il a toujours envie de marquer, qu'il pleure après avoir raté un pénalty, ça me touche. Il n'y a aucun problème, ça a toujours été un affectif, ce le sera toujours. Il n'y a pas de problème, c'est un grand champion. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, c'est inadmissible qu'il joue 3 matchs, 90 minutes, alors que le troisième match, tu es qualifié, tu peux le laisser donner du temps de jeu à un Gonçalo Ramos, à un João Félix.
Il a été sorti, mais il a joué une bonne partie du match.
Quasiment,
quoi.
Ouais. Il a été sorti vraiment à la fin. Ouais. Mais il joue 3 matchs quasiment pleins en phase de poule, et derrière, il va le laisser 120 minutes. Non mais franchement, je suis désolé. Alors qu'en plus, c'est un des entraîneurs qui a réclamé les 5 changements, qui a réclamé...
Alors ça, t'as raison, moi, c'est un truc qui me fume. Martinez, c'est un mec qui a voulu la liste élargie à l'Euro, qui a milité pour que les 5 changements soient là. Et au final, fois que t'es dedans, en fin de compète, où t'as des mecs qui ont joué des... je rappelle la stat, hein, Bruno Fernandes, c'est le joueur au monde qui a joué le plus de minutes sur l'ensemble des championnats mondiaux. Et il fait tourner personne.
Pas que lui.
Non mais c'est une stat que je donne.
Bien sûr, il y avait aussi Bernardo Silva.
Bien sûr.
Et il y a même Pep, même si c'est vrai que c'est toujours étrange de sortir un défenseur central, mais un défenseur central de 41 ans qui doit jouer 120 minutes face à un mec qui va quand même assez vite en la personne de Sesco, c'était quand même dangereux et on l'a vu et le Portugal a bien failli être éliminé sur cette action. Maintenant, Cristiano Ronaldo, ok, puisque Martinez en veut absolument comme titulaire, on pourra rien faire contre. Par contre, s'il te plaît, fais favor, por favor, tu peux pas le laisser 90 ou 120 minutes dans un match de très haut niveau aujourd'hui, surtout pas quand tu as les solutions que tu as sur le banc du Portugal. Pour moi, c'est inacceptable.
Non mais Kevin, tu penses pas aussi que Martinez il est aussi victime de cela?
Est-ce que tu penses aussi que Martinez, quand t'es entraîneur, t'es pas victime?
Non mais c'est pas ça. Moi je pense que Martinez, au-delà de ça, je pense qu'il a pas envie de créer une énième polémique au Portugal en prenant Ronaldo.
Mais en fait, il en crée une. Maintenant.
Si le dernier sélectionneur qui est une légende de Portugal.
Santos, il pouvait se permettre.
Santos, il a déjà eu du mal à le faire. C'était pire. Il avait une relation encore pire avec Ronaldo et il a pu le faire. Et en plus,
après, ça lui a peut-être coûté sa place aussi. Ah, attention, oui, ça a pesé. Hein,
ouais, mais ça, c'est ridicule.
Ah oui, mais ça a pesé. Ça qu'on le veuille ou pas, ça a pesé.
Mais moi, je pense que au-delà de tout ça, c'est que je suis d'accord avec toi, ouais. Kevin, dans le sens où on le voit, il est cramé, et même ses émotions ressortent, il sort de la frustration, il est plus, bien évidemment, à son âge aussi bon qu'avant. Mais après, moi, je comprends aussi la position de Martinez là-dessus. Il peut pas faire bouger les lignes.
Non, mais pas 120 minutes, Ricardo, il a raison. Attends, moi, je ressors un truc, je le redis. Mais dans quelle planète, dans un huitième de finale de l'Euro, t'as un mec de 41 ans et un mec de 39 ans qui joue 120 minutes avec le banc qu'ils ont. Ils ont tous les postes doublés.
Pep, c'est un autre sujet.
Mais même Ronaldo s'en est en passant 20 minutes, il a raison, Kevin.
Ronaldo, ça reste. Ok, d'accord. C'était le meilleur joueur du monde, un des meilleurs de l'histoire.
Aujourd'hui, Ronaldo, c'est 60 minutes, Ricardo. 70 minutes, c'est bon, on est au niveau.
Martinez peut attendre quelque chose.
Mais il attend quoi sur les matchs qu'on a vus. Si Ronaldo est dans la période comme il a eu en qualification face à des petites équipes, il marquait des buts, même là en préparation, il met un beau but, ok, pas de problème. Mais là, tu regardes le match quand même, il y a la lecture du match à l'instant T. Et la lecture du match contre la Slovénie, dès la première période, il te fait deux têtes à côté du ballon, il saute avant, tu vois qu'il est pas dans. Il est comme n'importe quel joueur, il a un joueur de moins bien, il en avait aussi à 28 ans. À 28 ans, tu le sortais pas parce que c'était une machine incroyable.
Mais il y en a pas qui a réussi à le gérer dans toute sa carrière, c'est Zidane. C'est le seul qui arrive à le mettre sur le banc sans quête de contestation. Sinon, tous les autres, à chaque fois, ça a été.
Voilà, donc il faut s'appeler Zidane, il faut avoir cette légitimité.
Tu vois, je t'avais dit, on aurait dû le prendre en sélectionneur.
Non, mais pour moi, Ricardo, définitivement, Roberto Martinez est le responsable numéro un, parce que moi, je pense qu'après la Coupe du Monde 2022, Roberto Martinez avait une énorme opportunité.
Mais bien sûr.
À partir du moment où Cristiano Ronaldo, de facto, avait été déclassé au cours de compétition, il aurait été, entre guillemets, facile pour Roberto Martinez de se dire que voilà, j'arrive en tant que sélectionneur et en gros, je vais me couper de Cristiano Ronaldo. Mais
justement,
le problème,
c'est qu'il y en a qu'un qui décide quand il se barre.
Non, mais justement,
c'est Ronaldo lui-même.
Non, mais
bien sûr,
non,
c'est pas si facile.
Pourquoi je te dis que Roberto Martinez est le responsable numéro un? Parce que Roberto Martinez a refusé d'affronter le discours populaire où, en gros, un mauvais résultat du Portugal, ça serait automatiquement remettre le dossier Cristiano Ronaldo sur le
Ouais, mais Ronaldo, et donc, attends, par rapport à Elton, ça, ouais. D'accord. Ronaldo, enfin, le débat de Ronaldo, on n'en parle que depuis cette compétition.
Alors là, c'est, moi, c'est ça que j'allais dire.
Pas du tout.
La phase de qualif, tu peux rien dire.
Il joue,
jusqu'à la dernière journée ou l'avant-dernière, il est le meilleur buteur.
À la dernière Coupe du Monde, il y a eu des discussions interminables partout, et au Portugal aussi, sur le fait que Ronaldo devait plus être titulaire.
Après, Nico, on sait très bien, on va pas se mentir. Il y a la réalité des qualifications, ou excusez-moi, ça paraît très compliqué d'être en dehors de l'Euro 2024, encore plus avec 24 équipes, et surtout la réalité d'une compétition. Maintenant, aujourd'hui, Roberto Martinez et Cristiano Ronaldo sont dans un bateau et ils ne peuvent pas, entre guillemets, en sortir. Et par rapport à ça, du côté de Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, on est sur un Euro où l'Euro de Cristiano Ronaldo, c'est l'Euro de l'impuissance et de la souffrance. Parce que moi, je suis devant un joueur qui veut, mais qui ne peut pas. Et ça se traduit match après match. Et le quatrième match est le paroxysme de ça, où on voit un Cristiano Ronaldo qui tente le tout pour le tout pour aller mettre son but, parce qu'il a le sentiment que le but change la face de son tournoi. Parce qu'aujourd'hui, on a traversé la moitié de l'Euro. Si on fait un bilan de Cristiano Ronaldo, on est beaucoup plus sur un tournoi à oublier qu'un tournoi inoubliable.
On est d'accord qu'on ne peut pas analyser ou juger Ronaldo comme n'importe quel joueur lambda.
C'est l'alerte, c'est le moment pour vous de vous inscrire et pour tenter de vivre l'expérience RMC Euro 2024 et gagner votre voyage, vos places pour assister à la demi-finale de l'Euro 2024. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16, Euro au 732-16 et donc gagner le package complet pour aller assister à la demi-finale de l'Euro 2024. Ce sera le 9 juillet prochain, coup d'envoi à 21h à Munich. On poursuit le débat dans un instant sur Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo, Johan et Jem nous ont appelé sur le 32-16. Il y a beaucoup d'appels d'ailleurs au 32-16. Juste petit détour également par le basket, match de préparation pour l'équipe de France avant les JO, France-Turquie avec Alex Biggerstaff. Comment il va, mon Billy?
Salut mon Villas, comment tu vas? Vous allez tous d'ailleurs, messieurs, bonsoir à tous. C'est parti à l'instant à Rouen pour le premier match de préparation des 6 qui attendent l'équipe de France avant les Jeux Olympiques. Et tout le monde est venu voir évidemment le talent international Victor Wembanyama. Beaucoup d'enfants dans la salle, ça le compte, plus de 5500 personnes qui sont là pour soutenir Wemby. Et le premier match de prépa des Bleus, ça vient de se lancer il y a à peine 30 secondes. On attend les premiers points de la rencontre. Bah tiens, premier ballon de Wembanyama à l'intérieur pour Rudy Gobert. Voilà les deux premiers points de l'équipe de France face à la Turquie.
Merci beaucoup, mon Bibi. Tiens, un petit message de Choco pour toi, mon Elton. Elton monologue beaucoup d'éloquence. Ah, il est là. Et Elton, président. Tu te présentes aux législatives ou pas? C'est trop tard.
Non, c'est trop tard là. Mais je suis beaucoup plus présidentiel, moi.
Ah, pardon. Excusez-nous, monsieur le président. Excusez-nous. Ah, oui. Je croyais que tu allais me dire sénateur. Ah, alors, on poursuit le débat.
Député.
Roberto Martinez est en train de flinguer au niveau de ses choix la gestion de Cristiano Ronaldo à vie tranchée de Kevin Diaz. On vous attend en 30 décembre avec Johan Jem, avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo et avec Ricardo Fati juste après ça sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After. Intégral Euro.
Nicolas Villas.
En compagnie de Ricardo Fati, avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo, 21h15, vous êtes dans Génération After. Vous savez qu'on est là jusqu'à minuit avec l'After dans la foulée, bien entendu. Merci d'être avec nous. Vous êtes très nombreux sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Kevin Diaz vient de nous dérouler son avis tranché. La gestion de Roberto Martinez concernant Cristiano Ronaldo est catastrophique. Beaucoup d'appels au 32-16. Et on commence avec Johan, supporter du Portugal, qui est avec nous. Salut Johan.
Ouais, salut la team.
Oh là là, je le sens dans ta voix, t'es déjà vénère, Johan.
Ouais, grave.
Vas-y, Ryan.
En fait, moi, je vais reprendre pratiquement tout ce qu'a dit Kevin, quoi. Voilà, il y a pas plus à dire. Moi, je suis dégoûté d'avoir une génération comme ça. Ça fait quelques années qu'on l'attend, parce qu'à l'Euro 2016, on va pas dire qu'on a brillé par notre beau jeu. On a gagné, donc la victoire a quand même été belle, surtout qu'on la connaît pas souvent. Mais avec cette génération, c'est pas possible de faire ça, quoi. C'est pas possible. Et en plus de ça, ce qui vient s'ajouter à ça, c'est la gestion Ronaldo à presque 40 ans. Enfin, je sais pas, quoi. On joue contre des équipes avec un football super athlétique, avec deux joueurs qui ont pratiquement 40 ans, qui peuvent pas fournir ce que peut fournir un joueur de football en pleine force de l'âge. Mmh. Et le pire dans tout ça, c'est quand je vois le troisième match, je vois Ronaldo titulaire et le mec joue pratiquement tout le match.
Non, tout le match.
Tout le match, voilà. Alors que sur le banc, je sais pas, moi j'ai envie de voir des joueurs au Félix. J'ai envie de voir du Gonzalo Ramos. J'ai envie de voir même du Pedro Neto. Enfin, j'ai envie de voir d'autres joueurs, quoi. Et les mecs, on sent qu'ils en ont sous la semelle. En plus, ils ont envie de tout éclater avec leur sélection. Et limite, j'en veux un petit peu à Ronaldo. Mais à la rigueur, lui, il pense à lui. Mais Roberto Martinez, il nous fait quoi, lui? Il nous fait quoi, ce
Après,
mec?
Encore une fois, Johan, moi je me répète, mais moi je pense que il est un peu prisonnier, on va dire, de la passion de Cristiano Martinez. Je pense qu'il est un peu victime de tout ça. Alors oui, c'est le coach, hein. Il a le devoir.
Ah, lui, il est censé être là pour rétablir justement l'équilibre.
Après, encore une fois, avant que je sois interrompu tout à l'heure, moi je pense qu'on peut pas analyser, même juger Ronaldo comme un joueur lambda. Moi, je pense que je suis partie de ce genre d'ex-joueurs ou de personnes qui croient aussi à l'aura, à l'influence d'un joueur sur le terrain. C'est comme je l'ai dit précédemment avec Kylian, avec Mbappé, même diminué, il est important dans une équipe sur le terrain.
Ronaldo, moi, je pense que c'est
Mais tu crois qu'il fait flipper un Saliba, par exemple, en pas mécano vendredi?
Moi, je peux te dire que Ronaldo, il peut flipper davantage.
Alors, je vais dire un truc. On a eu Chano dans la radio digitale, l'international luxembourgeois. Qui s'est mangé deux piquettes par le Portugal. Il a été le premier à dire avant l'Euro, mais il faut que les mecs ils le mettent sur le banc. Il dit même nous, le Luxembourg, petit bien Luxembourg, sûr. Quand on l'a vu, on s'est dit, ok les gars, il a marqué 50 buts avec Al Nasser en Arabie Saoudite, mais on préfère limite le voir lui sur le terrain que de voir un Gonzalo Ramos, parce que l'accélération, c'est ce que lui m'a dit. Hein, je te dis pas que je suis d'accord.
Non, mais et puis là, tu parles d'aura et tu parles d'influence sur les autres, et l'influence négative et l'influence qui inhibe.
Après ça, Kevin, moi sincèrement, ce discours-là, moi, ça veut dire qu'on s'est trompé sur le pédigré de ces joueurs. C'est-à-dire que on parle quand même de Bernardo
Après,
Silva.
On le ressent moins.
Mais juste pour continuer, on parle de Bernardo Silva qui a un cadre à Manchester City, qui a été capable de marquer en demi-finale de Ligue des Champions. On parle de Bruno Fernandes.
T'es un cadre.
Oui, mais justement.
Toi, tu me parles d'un cadre. Oui. Moi, je te parle d'une statue.
Mais d'accord.
Le cadre est trop petit pour la statue.
Ouais, mais Kevin, on parle de Bernardo Silva, cadre à Manchester City. Bruno Fernandes.
Écoute-moi bien.
Capitaine de Manchester United.
Bruno Fernandes. Il est jamais aussi bon que sans Ronaldo.
Oui, mais Là, pour le coup, ça va aller dans ce que je vais dire, Elton. L'idée qu'en gros, pour que ces joueurs-là performent et qu'il faut que Cristiano Ronaldo soit absent, ça veut dire que pour moi, on s'est trompé sur le pedigree de ces joueurs et qu'ils sont incapables de s'émanciper.
Là, justement,
au final, vous dites un peu la même chose.
Non, justement, tu sous-estimes l'influence de Ronaldo, t'as beau être un cadre de Manchester City, t'as beau être Bruno Fernandes, t'as beau être qui tu veux dans la sélection portugaise. À partir du moment où il y a quatre fichus coups francs,
oui,
et qui tirent les quatre dans la tribune, et qu'il n'y en a pas un qui est capable de dire, mais c'est qu'en fait, c'est impossible.
Oui, mais dans le jeu,
moi, les coups francs, c'est symptomatique. Les coups francs, c'est symptomatique.
Vas-y, Johan.
T'as Bruno, ouais, juste, je laisse la parole à Johan. T'as quatre coups francs. Comment tu peux m'expliquer que celui pour un gaucher, il n'est pas pour Bernardo Silva, qu'il n'y en a pas au moins un des trois qui sont pour un droitier, qui sont pour Bruno Fernandes, ou pour Cancelo, pour qui tu veux. C'est-à-dire que c'est d'alerte que ce gars-là vampirise.
Ah, vas-y, vas-y. Ces joueurs s'écrasent.
Johan, c'est
impossible.
Après, Ronaldo, c'est une sainteté au Portugal. Ouais. Alors, les joueurs, ok, pas de souci. Mais déjà, Roberto Martinez, quand il arrive en place au Portugal, il le dit. Il le dit qu'il va compter sur Ronaldo. Il le dit que ça va être le joueur. Enfin, je veux dire, il peut plus faire marche arrière après. Ouais. Il peut pas dire ce qu'il a dit avant l'Euro pendant les deux ans et arriver à l'Euro le mettre sur le banc. Alors que je suis sûr que Ronaldo, tu lui fais jouer les 30 dernières minutes des matchs, il est pas à zéro pion au bout de 4 matchs. Hein. Mmh. C'est sûr et certain.
Tiens, reste avec nous, Johan. On va accueillir Jem, qui est pas du tout d'accord avec toi sur la gestion de Cristiano Ronaldo par Roberto Martinez. Salut, Jem.
Salut, les gars.
Salut, Jem.
Ça va, Jem?
Ben franchement, pas trop quand j'entends ce que vous dites.
Aïe, aïe, aïe.
J'ai l'habitude d'être souvent d'accord avec vous, notamment avec Kevin, que j'adore beaucoup. Mais là, sur le coup, je suis mais vraiment pas du tout d'accord, les gars.
Alors vas-y, vas-y, Jem.
Je vais juste argumenter en quelques
mots. Vas-y,
vas-y. Alors effectivement, Ronaldo, c'est plus le même Ronaldo qu'il y a 10-15 ans. Ça, on est tous d'accord. Hein, et ce serait mentir de prétendre le contraire. Mais il y a une chose que je pense que certaines personnes ne veulent pas comprendre. C'est l'aura qu'il peut avoir sur le terrain. Et le problème qu'il y a, je prends un exemple, je prends le comparatif avec un Messi, qui est, on va dire, les joueurs de la même génération. Ce que les joueurs argentins ont compris et ont réussi à faire lors de la Coupe du Monde 2022, et pourtant on ne peut pas me dire que Messi a fait une très bonne Coupe du Monde 2022, c'est qu'ils se sont tous mis au diapason pour lui, et ils ont joué pour lui. Et même sur les phases éliminatoires où Messi n'était pas forcément au top, il a même loupé un ou deux pénaltys, au final, les mecs se sont battus pour lui sur le terrain, et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, ils ont remporté la Coupe du Monde. Et ce qui a manqué au Portugal lors de la Coupe du Monde 2022 et encore lors des trois premiers matchs, c'est que tu as l'impression que certains mecs jouent contre lui. Je prends l'exemple de Bruno Fernandes, que vous m'en faites des tonnes. Je suis désolé les mecs, mais moi j'ai l'impression que surtout les deux premiers matchs, regardez les matchs, il y a des moments où il peut faire des centres, des passes, où Ronaldo est démarqué, il ne le fait pas.
Ouais, mais en qualif, il le faisait, Jem. En qualif, ça a été Fernandes et Ronaldo.
Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, juste pour terminer, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas attendre de Ronaldo de faire ce qu'il faisait il y a 10 ans, 15 ans. Ça, c'est juste OK, on est d'accord là-dessus. Mais si toute l'équipe se met au diapason et qu'on joue pour lui, le mec, c'est un tueur à gages.
Mais l'équipe joue déjà pour lui.
Non, justement. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que le dernier match contre la Slovénie, ça a été beaucoup plus collectif. Je ne sais pas si la passe décisive qu'il a fait à Bruno Fernandes, là où il pouvait marquer, ça a un peu changé les relations, ça a changé quelque chose. Mais j'ai l'impression que lors du match de la Slovénie, là, c'est lui qui a fait un mauvais match. On ne peut rien dire, il a eu des balles devant les buts, il a loupé. Là, je suis d'accord. Mais regardez bien les deux premiers matchs, surtout, c'était flagrant. Il y avait des moments où il était démarqué, etc. Et ils ne l'ont pas fait. Mais j'ai l'impression que son pénalty loupé, ça a été un mal pour un bien, parce que quand j'ai vu tous les joueurs venir vers lui, le soutenir, etc., même justement les fameux joueurs qu'on a l'impression qu'ils sont contre lui, si les mecs comprennent qu'en étant avec lui, qu'en le soutenant, on peut aller loin et on peut aller chercher cet euro une deuxième
mais
fois...
Attends, Jem, juste sur un truc pour en venir à ce que disait Kevin. Moi, il y a juste un truc où moi je suis totalement en accord avec Kevin. Est-ce que tu es quand même d'accord ou pas pour dire que c'est quand même assez fou de se dire que Ronaldo a joué les 120 minutes contre la Slovénie? Est-ce que quand t'es Roberto Martinez, tu peux le titulariser, mais à un moment, quand tu vois... Alors après, moi, je pense que, et c'est là où je rejoins aussi un peu Ricardo, je pense que Martinez se dit, si je le sors, alors qu'il a pas marqué depuis le début de la compète,
c'est ça,
et alors qu'il vient de foirer un pénalty, en fait, je le perds. Il va m'arriver la même que Santos à la Coupe du Monde.
Il faut le sortir
avant le pénalty. Peut-être que s'il avait marqué, notamment, parce que vous me parliez du match contre la Géorgie, peut-être que s'il avait marqué les deux premiers matchs, il aurait peut-être pas mis titulaire ou pas. Ça se discute. Mais les gars, Ronaldo, même à la 118e, c'est un mec qui peut te mettre un but à tout moment.
Merci,
et au tir au but,
mais oui, mais ça pour tout le monde.
Je vous l'ai dit, messieurs.
Mais non,
mais ça se vérifie quand
Ronaldo Ramos. C'est à dire qu'il te met un but la guerre 2016, c'est pas Ronaldo, il est
à la 7e. Les gars, s'il vous plaît, si on continue de dire, comme j'ai pu lire tout à l'heure dans le chat, que Ronaldo, comme tu dis Ricardo, ça reste Ronaldo, mais non. En fait, non. Aujourd'hui, c'est faux. Ronaldo, il peut mettre un doublé contre la France. On lui dira bravo. Je ne retirerai pas un mot de ce que je viens de dire là. C'est pas pour ça qu'il doit être titulaire le match d'après.
Et encore une fois,
parce que aujourd'hui, c'est un joueur qui ne peut plus physiquement avoir le statut de titulaire indiscutable. Et s'il est titulaire, il ne peut pas jouer 90 minutes. Pas dans la sélection portugaise avec les armes qu'ils ont sur le banc.
Et encore une fois, Kevin, la dernière fois que parce que c'est souvent cette théorie qui revient, la dernière fois que cette théorie de Cristiano Ronaldo qui est capable de mettre le but, qui va changer la réalité du Portugal, c'était contre le Pays de Galles en 2016.
Ouais.
C'était à Lyon en 2016. On est quand même en 2024. 8 ans se sont écoulés. Et donc, moi, par rapport à ça, je ne peux pas toujours rester derrière cette théorie en me disant Cristiano Ronaldo, il va faire la différence parce que les faits sont têtus. Plus ça va, plus on avance dans cette théorie, et plus cette théorie est moins vraie.
En revanche, il y a un truc qui est ouf, parce que je vois les messages sur le chat, il y a beaucoup d'appels au 32-16, Max est là notamment, il vous attend. C'est hallucinant. Je pense que ce mec, jusqu'à 50 ans, s'il joue encore, il va continuer de diviser. Il y aura toujours. C'est difficile d'ailleurs d'avoir des gens avec un avis un peu mesuré du style. Moi, par exemple, ça me choque pas qu'il soit titulaire. Par contre, qu'il joue 120 minutes tout le temps, 90 minutes. Là, on est d'accord.
Non, mais concernant les 120 minutes,
vas-y.
Concernant les 120 minutes, comme il a dit, James, ça dépend aussi du scénario. Il a arrêté un penalty, certes, mais Martinez, il sait pertinemment que Ronaldo, c'est un mec qui va se remettre en question, qui va apporter une influence positive, Kevin.
Mais il a rien apporté, en fait.
Il a marqué son tir au but.
Non, mais Ricardo.
Il a mis son tir au but. Ouais, il a montré quelque chose. Il a amené une émotion à l'équipe.
Ouais, mais Ricardo, tu vois un joueur qui est trop anxieux.
Moi, je pense que c'est important.
Ricardo, tu vois un joueur qui est trop anxieux au point de craquer à la mi-temps d'une prolongation.
Mais il a toujours été démonstratif.
Ça traduit une nervosité qui n'est pas de mise quand t'es à 0-0 contre la Slovénie. On parle d'un 0-0 contre la Slovénie. Si t'es dans cet état-là contre la Slovénie, excuse-moi, c'est l'équipe de France. Là, c'est le Tour de France.
Il va commencer à fondre et à.
Non, je te dis pas ça. Je te dis juste que
c'est la France et pas la Slovénie.
Non, je te dis pas ça. Je te dis juste que cette idée de mettre le but qui va loin. Non, je te dis juste que cette idée.
Vous êtes en train de juger Ronaldo comme un vulgaire joueur de Ligue 1.
Non, non,
mais
non.
Arrêtez, même s'il a 39 ans, 41 ans.
C'est parce que j'ai du respect pour ça.
Moi, par contre, en revanche, ce truc-là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre en quoi c'est gênant qu'un mec qui est déjà 40 piges, il se mette à chialer après avoir
foiré
son
pénalty. Pas ça.
Non, parce qu'il y a des mecs qui te disent, ça va peser émotionnellement.
Exactement.
De même qu'il avait pleuré après d'autres défaites, qu'il a pleuré à la finale en 2016 quand il se blesse. Il lui pleure aussi.
Excusez-moi,
juste pour terminer, les larmes en lui-même, ça ne me dérange pas. Et par contre, on ne peut pas dire que les larmes sont un événement isolé, ça traduit une nervosité, une anxiété. C'est tout ce que je dis. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'il pleure. Et par contre, on est obligé de décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça traduit le fait qu'on a un joueur qui est anxieux à l'idée de mettre le but qui va lancer son tournoi.
Moi, je traduis comme un joueur qui est impliqué.
Tu rends ça beaucoup plus anonyme.
Les larmes, ça n'est aucunement un problème, mais c'est aucunement normal non plus.
Bien sûr.
C'est pas normal.
Je vois pas pourquoi c'est pas normal.
C'est pas normal.
On connaissait Ronaldo, c'est normal.
Oui, mais tu peux pleurer à la fin du match. Mais à la mi-temps d'une prolongation, et là je suis d'accord avec Elton, ça montre une certaine émotivité absolue dans ce match. C'est la peur du vide. Et ça, c'est pas vraiment sain, je pense. Mais bon, finir.
La peur du vide, il a quand même senti le but derrière.
Non, mais la peur du vide dans l'idée de laisser tomber son pays. Et ça, pour le coup, je comprends.
Bah justement, je préfère un mec qui chiale parce qu'il se dit qu'il culpabilise d'avoir
fait son avenir. Oui, ça, je comprends.
Et pour le coup, pour moi, on peut pas faire de généralité. C'est-à-dire, t'as des mecs plus sensibles que d'autres. Il y en a sur qui ça va glisser. Lui, il a toujours été comme ça.
Pas la mi-temps d'une prolongation.
Parce qu'il a jamais foiré un péno à ce moment-là du match aussi. Ça joue aussi. Ouais, attends, là, t'es en 8e. C'est son dernier euro. Il le dit à la fin du match en plus. Tu joues la Slovénie en 8e. T'as quand même de la chance au tirage.
Ça, c'est autre chose.
Au Qatar, on l'a mis chialé aussi dans le tunnel.
Le vrai problème, c'est qu'en fait, un gars comme moi qui est un fan absolu de Cristiano Ronaldo, à cause de la gestion de Martinez, doivent réclamer que Ronaldo joue moins ou ne joue pas. Et ça, c'est un gros problème parce que je pense et je reste sur mon avis. Mon avis est de te dire. Ronaldo, moi j'aurais fait 100. Et je pense d'ailleurs que certains cadres de l'équipe du Portugal auraient aussi aimé faire 100. Mais ça, j'ai pas d'infos.
Juste un sentiment. Moi, je dis, faut pas exonérer les cadres.
Par contre, pourquoi pas avec Ronaldo, mais pas 90 minutes. Pas 120, surtout pas.
Bon, Jem, merci d'avoir été avec nous. Vas-y.
Je peux rajouter juste une dernière chose, les gars, s'il vous plaît.
Vas-y.
Mais franchement, de vous à moi, les gars, vous me parlez de Gonzalo Ramos. Combien de temps il a joué cette année avec le PSG? Combien de temps il a joué? Si on avait vraiment un remplaçant de taille qui pouvait être à
mais,
la
mais il a mis un triplé en huitième de finale de Coupe du Monde.
Il y a deux ans,
il a rien fait Ronaldo dans les deux dernières années, dans les grandes compétitions, dans les matchs à élimination directe, ni dans les huit dernières années. Elton doit te le dire.
Regardez à partir des quarts. On peut se rappeler la semaine prochaine. Vous allez voir. Qu'il continue à faire confiance à Ronaldo, ça va payer. Et on en reparlera d'ici.
Ouais, mais James, il a soulevé quelque chose qui est très intéressant et que Roberto Martinez, ça se voit, mais il a une confiance très limitée envers le supposé potentiel banc portugais.
Parce qu'attends, il y a un nom qu'on n'a pas prononcé encore. Et qui a pourtant est pas mal rentré, c'est Diogo Jota aussi, hein, qui était aussi le joueur qui pouvait rentrer.
Qui a été chercher quand même un pénalty. Après, si on finit sur Martinez, moi, faut m'expliquer comment tu fais rentrer le petit Conceição quand même. Je suis désolé pour moi, mais jamais tu le fais rentrer devant ceux, même devant João Félix.
En plus,
il faut arrêter.
Alors, merci Anthony, merci Jem d'avoir été avec nous au 32-16. Tiens, un petit détour par Wimbledon avec Eric Salio, deuxième tour de Wimbledon, on le rappelle. Il est là, il se régale sur le gazon de Wimbledon, mon Eric.
Ah ouais, avec deux beaux matchs. Hein. Le premier qui concerne un Français, hein, c'est Gaël Monfils qui mène au score face à Stan Wawrinka. C'est la bonne nouvelle. 7-6, 2-1 et break dans le deuxième set pour le Parisien. Mais je sais pas combien de temps encore ça va durer puisqu'il est 20h30, il fait sombre. En revanche, sur le central, on ira au terme du match du derby italien entre Sinner et Berrettini puisque le toit a été installé ainsi que les projecteurs. Et pour l'instant, il y a 1-7-0 pour le numéro mondial, Yannick Sinner, donc qui a remporté le tie-break, un tie-break très serré. Et il y a 4 partout au deuxième set. C'est Berrettini qui vient de sauver le break à l'instant.
Merci Eric. Il y a également du basket ce soir, match de prépa de l'équipe de France avant les JO France-Turquie. Alex Biggerstaff.
Moins de 2 minutes à jouer dans le premier quart-temps et déjà 23-10 pour l'équipe de France. On ne voit que les Français sur le parquet. Le mot défense qui ressort, notamment avec le duo Wembanyama-Gobert à l'intérieur. 8 points pour Rudy Gobert. Déjà 2 seulement pour Victor Wembanyama. Mais les deux créent beaucoup, beaucoup de difficultés à une équipe turque pour l'instant assez silencieuse.
Merci Alex. Thierry Henry qui va donner sa liste pour les JO de Paris ce soir à minuit. C'est la deadline. La deadline, il est annoncé aujourd'hui qu'il avait perdu Khéphren Thuram, qui ne sera pas autorisé par son futur club à disputer les Jeux Olympiques. Les JO, mission impossible ou pas pour les Bleus d'Henri, venez nous le dire au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
21h34, vous êtes dans l'after. Merci d'être avec nous, avec Ricardo Fati, Elton Mokolo, avec Kevin Diaz. Vous êtes très très nombreux également sur le chat de la chaîne YouTube de l'after. On vous attend au 32-16 également. Alors il était largement question de l'Euro, de ce quart de finale entre la France et le Portugal qui aura lieu vendredi à 21h à Hambourg. Mais l'actu des prochains jours, c'est aussi les JO qui seront à vivre et à suivre sur RMC. Et ce soir, minuit, Thierry Henry va donner la liste des joueurs convoqués pour les Jeux Olympiques. Et il a beaucoup de problèmes, de problématiques. Le sélectionneur de l'équipe de France olympique. Alors, on rappelle déjà que la liste pour les JO, elle est limitée à 18 joueurs. Il y a 4, ouais, plus 4 réservistes. Ce qui est quand même ouf. C'est-à-dire que tu en as 8 de plus à l'Euro pour les nations. Mais surtout, il est tributaire du bon vouloir des clubs de libérer leurs joueurs pour disputer ces JO, puisque ce n'est pas des dates FIFA. Et le sélectionneur olympique a fait une révélation au début de sa conférence de presse aujourd'hui.
Je peux vous dire quelque chose, il y a un joueur qui est parti. Et qui est Khéphren Thuram. Voilà pourquoi on est obligé d'attendre au dernier moment, parce que cet appel dont je vous ai parlé à maintes et maintes reprises est arrivé ce matin. Donc voilà, le club où il doit aller normalement s'oppose à sa venue. Donc voilà, très dur au niveau de ce qu'il représente dans le jeu, au niveau de ce qu'il représente aussi dans le groupe. Mais voilà, nous on ne peut pas se permettre de se retrouver dans une situation où demain, tu mets un mec sur la liste et puis tu sais que ça pouvait dire non, que ça allait dire non quelque part. Donc voilà, pas évident, mais on va faire avec.
Allez, on va faire avec. Alors ce club,
on sent le dépit. Hein.
Ah bah ce club où normalement doit aller Khéphren Thuram, il a pas voulu le révéler, mais c'est la Juve. Et alors outre Thuram, Henry va peut-être voir d'autres joueurs bloqués par leur club. Et il a fait état d'ailleurs de cette situation. Écoutez-le.
J'espère que vous comprenez bien la démarche. Nous, ce soir, on doit fournir une liste avant minuit et prendre le risque de perdre un joueur le lendemain. C'est juste c'est juste impossible.
Voilà. Alors, est-ce que les JO, c'est mission impossible ou pas pour les Bleus? Venez nous le dire au 32-16. Juste parce qu'on a un peu bossé le dossier avec Jimmy Brown et avec Jeannot Rességuier qui va suivre l'équipe de France olympique. Aujourd'hui, il y a Chotard, Cherki, Manu Koné, Olysse, voire Bradley Loco de Brest, qui pourraient changer de club et donc potentiellement être bloqués par leur futur club. Et les Jeux olympiques, c'est quand même fou de se dire, les JO, c'est demain, c'est pas des dates FIFA. Il va faire une liste, mais dans cette liste, il y a peut-être des joueurs qui vont devoir sauter parce que le futur club peut dire non.
Nico, on est sur quelque chose de proprement scandaleux et même dangereux. C'est-à-dire que, en gros, t'as évoqué les joueurs qui sont susceptibles de partir. On fait quoi si, par exemple, Dortmund, à 24 heures du premier match de l'équipe de France, officialise Ryan Cherki et en gros, ils disent, tu viens plus?
Bah, c'est ce que dit d'ailleurs, tiens.
Bah, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est sur quelque chose de dangereux parce que, Kéfren Thuram, je vais pas me tromper, il a fait rassemblement avec l'équipe de France olympique, il a fait une partie de la préparation.
Ah bah il l'a dit, là, il vient de partir.
Exactement. Donc la Juve, qui devrait être le prochain club de Kéfren Thuram, était au courant qu'il y avait un joueur à Clairefontaine, et malgré ça, ils disent au dernier moment c'est veto. Fait à un moment donné, on peut pas se cacher derrière l'idée que c'est pas une date FIFA donc il ne vient pas. Non, la Juve connaissait la situation et pour moi c'est quelque chose qui est scandaleux et qui est dangereux parce que l'idée que un club qui n'était pas présent, notamment au moment des discussions en amont de cette compétition, récupère le joueur entre-temps et puisse dire il ne vient pas, pour moi ça me paraît quelque chose de dangereux. Et si c'est à 24 heures du début de l'équipe de France, pour moi c'est vraiment très 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 inquiétant.
Non, pour moi, en tout cas en ce qui concerne la Juve... pour moi, c'est pas du tout scandaleux, hein.
Tu mets dans son droit.
Mais on peut pas se cacher derrière le droit.
C'est la faute à qui? C'est au joueur de dire, c'est au joueur d'imposer la condition. Je pose la question.
Tant que c'est pas une date FIFA, les gars, on parle des Jeux Olympiques. Avec tout le respect que j'ai pour les Jeux Olympiques, c'est une compétition mineure dans le foot.
Dans ce cas-là, Kéfren Thuram, il dit à Thierry Henry, écoute, j'y vais pas. Mais c'est pas, change de club et au final, finalement, il veut pas.
Mais non, il était dans un club. Kéfren Thuram veut représenter la France aux Jeux Olympiques. Moi, j'aurais voulu représenter la France aux Jeux Olympiques, pas de problème. Mais à partir du moment où t'es inclus dans un transfert et que désolé coach, mais le club où je leur ai demandé, ils m'ont dit non, c'est pas possible, on va investir sur toi, on peut pas prendre le risque que tu fasses cette compétition. Merci, au revoir les gars.
Non, mais Kevin, on peut pas aller dans...
De me parler de scandale. On peut pas dire toute l'année. Le football, c'est devenu un business. Et quand une entreprise te dit attention, je veux pas que mon asset, je veux pas que mon prospect, je veux pas que mon joueur prenne le risque. À partir du moment où c'est pas une date FIFA.
Je déplore que le foot ne soit qu'un business et qu'aujourd'hui l'employeur décide, même pour des équipes nationales.
Déplorer, mais la règle elle est là. Donc.
Mais d'accord, mais la règle, elle est là, c'est pas parce qu'elle est là qu'on peut pas le déplorer.
Mais on peut s'offusquer, mais à un moment, c'est pas un scandale. On peut trouver ça dommage, mais il y a une différence entre trouver ça dommage et dire que c'est un scandale.
Non, mais Kevin, on va arriver par exemple sur une situation caricaturale. C'est qu'en gros, l'équipe de France est en demi-finale olympique. Entre temps, il y a un joueur qui change de club et le club dit tu rentres à la maison. Donc
c'est
on fait quoi?
Le jeu.
Bah non, tu peux pas arriver sur ce raisonnement-là. Tu peux pas arriver sur. Non, on peut pas. Là, on arrive sur une situation qui est caricaturale. Donc, en gros, un joueur qui arrive, qui a fait ses matchs, et qu'en gros, parce qu'il change de club pendant la compétition, et le nouveau club lui dit, t'arrêtes.
Président,
pour moi, c'est une situation,
je dirais même que c'est abracadabrantesque, disait Jacques.
La poudre de perlimpinpin.
Absolument. Ricky.
Non, mais moi je rejoins Kevin totalement. C'est le jeu. À partir du moment où la date n'est pas une date FIFA, n'est pas une date réservée pour le.
Et ben on enlève le foot des JO.
Non, mais je peux me tromper, mais les 18 joueurs, ils sont dans des clubs qui sont sous égide FIFA. On est d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont accepté. Ils ont accepté, donc on peut pas se retrancher derrière.
Mais il y a pas cette compétition dans le calendrier.
Non, mais on peut pas se retrancher derrière seulement l'idée que c'est pas une date FIFA. On arrête.
Elton, ils ont accepté moralement. Ils ont pas accepté.
Mais c'est encore pire. Excuse-moi, c'est pire. T'engager moralement, c'est pire que de signer un contrat.
C'est ce qu'on déplore.
À partir du moment où le joueur dit j'y vais, par exemple.
Mais si, il change de club.
Il dit à son nouveau club écoute, mec, je me suis engagé, j'ai envie d'aller au JO. C'est trop facile, les mecs.
Ils disent non.
Mais qui dit non? J'en sais rien, mais tu te mets d'accord avec la Juve, tu dis moi j'y vais. Donc c'est quoi?
Tu reproches à Kéfren Thuram de ne pas avoir mis plus de pression sur la Juve.
Ouais, absolument.
Mais totalement. C'est impossible. Le gars, il a la possibilité
de sa carrière,
de rentrer dans un des
dans vive l'individualisme, vive le carrière, vive le libéralisme.
On le regrette, Nico.
Pour moi, sur ce dossier-là, il y a un manque d'intelligence dans toutes les parties. Moi, je suis désolé parce que à un moment donné, il y a un manque
d'intelligence. Donc c'est Nice qui est pas intelligent.
De Kefren Turan.
Notamment de Kefren Turan.
Si, Kefren Turan, tu penses qu'il, tu reproches quelque chose à Kefren Turan?
Bah oui, parce qu'à un moment donné, il est dans le rassemblement, il peut pas se retrancher derrière cette idée que, en gros, le club a tous les pouvoirs et qu'en gros, moi, je dois m'aligner sur ça.
Alors
moi,
déjà, là, on est en train de, entre guillemets, cracher sur la Juve. Ça se trouve, c'est même Nice qui a dit, bon bah t'es gentil, Kefren, on a trouvé un accord. Au revoir.
Donc si Nice est impliqué, c'est tout aussi problématique.
Bah bien sûr,
c'est tout aussi problématique.
Moi, c'est impossible d'impliquer le joueur, par exemple.
Non mais moi j'ai aucun
problème d'employeur.
Moi j'ai aucun problème.
Il a pas le choix.
J'ai aucun problème si en amont de la compétition, en gros, le club se dit, se positionne à l'instar de ce qui s'est passé pour Kylian Mbappé au Real Madrid, dit non, c'est terminé, il y a pas de souci. Et par contre, là, on est dans une situation où le joueur a les équipements de l'équipe de France, s'entraîne, se prépare, et derrière on lui dit la fête est terminée.
Elton Mokolo
présent.
Tu vas pour acheter une voiture.
Sois fort parce que là va falloir que tu répondes.
T'as le permis ou pas? Vas-y.
Non,
okay. Voilà, et un de plus,
un jour t'as le permis. Tu veux acheter une voiture.
Ouais.
Le propriétaire te dit, par contre, moi, j'ai un aller-retour à faire au Kazakhstan. Tu lui laisses ou pas?
Mais non, mais
c'est-à-dire, c'est quoi le rapport?
C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un club qui veut prendre un joueur.
Ouais, même Ricky,
le joueur, il ne veut pas prendre le risque de prendre un joueur si ce joueur-là doit faire une compétition. Si ce joueur doit faire une compétition, il ne veut pas prendre le risque.
Mais tu vois, Kevin.
En quoi tu peux reprocher au club?
Ta métaphore, elle est symbolique, mais vraiment, de toute la dérive de ce que devient le football. C'est-à-dire, les joueurs ne sont que des marchandises.
Bien sûr.
C'est une bagnole, on t'achète.
Mais tu sais quoi? Tu es
là. Tu vas aller là. Mais peu importe, il s'est engagé à aller à une compétition. Le club s'est engagé à y aller.
Le club, c'est pas le club.
Écoute-moi, à partir du moment où Nice, mais on s'en fout, à partir du moment où Nice a dit au début de la compète, écoute, Juve, tu le veux, ok. Par contre, sache une chose. On s'est engagé auprès du joueur, y compris moralement, ce qui pour moi est pire que de s'engager contractuellement, à ce que le joueur aille au JO. Vous le voulez? Ok, le joueur veut aller au JO. On s'est engagé auprès de Thierry Henry, de la Fédération Française de Football.
Bien sûr.
Et mets-toi à la place de Thierry Henry maintenant, toi qui es entraîneur aussi.
Alors Nico,
le mec qui va.
Thierry Henry connaissait la règle avant d'aller.
Mais connaissait la règle, il peut le déplorer que les mecs. Là, il a 4 joueurs dans l'embarras, comme disait tout à l'heure Elton. Ça se trouve, il va recevoir un coup de fil dans 3 jours. La compète sera sur le point de débuter. Oui, bonjour. C'est Dortmund. Ryan Cherki vient chez nous au final. Oubliez. Hein. Il vient pas. Non mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi l'intérêt?
Plus, sincèrement, on est dans une
Bien sûr que là vous poussez le bouchon le plus loin possible.
Mais c'est pas non, c'est Henri qui te le dit.
Je l'entends. J'avoue que si c'est pour jouer une finale des JO, c'est autre chose. C'est vrai que
c'est
là
pour jouer les JO.
Oui, non mais j'entends. Ouais. C'est vrai que là ce serait dur un club qui achète un mec la nuit avant la finale et qui lui dit demain tu joues pas la finale. Mais si le club lui dirait ça, je comprendrais le club. Aujourd'hui, au vu, malheureusement, moi je le déplore, mais au vu des sommes, au vu des exigences qui sont engagées aujourd'hui dans le haut niveau.
Non, c'est non, pas mais il y a que ça qui prime, les gars. Mais bien sûr, la priorité, c'est le club, parce que c'est lui qui paye, parce que les sélections, elles ne payent pas, parce que les joueurs ne se valorisent pas au JO.
Et surtout, Nico,
mais n'y allez pas, les mecs, alors. Eh bien, n'y allez pas, les gars. Arrêtons avec les JO.
Et surtout, Nico, on est dans une hypocrisie. On est dans une hypocrisie que moi, malheureusement, je suis obligé de dénoncer parce que d'un côté, en
quoi l'hypocrisie?
Non, l'hypocrisie, je vais te l'expliquer. D'un côté, on a un joueur qui, parce qu'il n'y a pas les datifs, il y a un transfert, donc il doit partir. Et par contre, pendant l'Euro, il y a des joueurs qui vont flamber pendant l'Euro. Ils vont avoir des transferts pendant l'Euro. Mais en gros, on est dans une hypocrisie parce que eux, ils auront droit de rester parce que c'est
une compétition.
Mais si demain l'Euro, il est plus une compétition FIFA.
Mais
les clubs vont faire pareil.
On est sur deux situations similaires, sauf que la différence, c'est qu'il y a une compétition qui est protégée par la date FIFA. Mais moi, éthiquement et moralement, moi, je comprends pas. C'est tout.
Allez, on y va, les gars. De toute façon, on sera pas d'accord. On a compris. Hein, c'est un débat qui attise les passions, qui divise la France, messieurs dames. 21h15, on revient dans un instant sur RMC avec les infos du jour. Pas mal d'infos mercato. Je vais vous dire la liste d'Hervé Renard et de l'équipe de France féminine sera dévoilée le 8 juillet également. Et vous dire que la liste de l'Argentine a été révélée. Et ils ont 4 champions du monde, mon pote. Il y a Rulli Otamendi, Thiago Almada et Julian Alvarez. Ouais, ils y vont. Il y a pas de problème. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After, Intégral Euro,
Nicolas Villas.
Avec Elton Mokolo, Kevin Diaz, avec Ricardo Fati, l'After sera là dans 10 minutes, hein, jusqu'à minuit, bien entendu. Gros débat hein, sur les JO, je pensais pas qu'on se serait aussi animé sur les JO, les gars.
Et puis Nico, j'en profite pour...
Spécial dédicace, t'as vu, vas-y.
Non, j'en profite pour féliciter Manchester City, champion d'Angleterre en titre, qui va donc jouer le Community Shield face à Manchester United le 10 août, mais qui malgré ça... libère Julian Alvarez.
Ouais, je pense qu'ils vont le vendre d'ailleurs. Ça, c'est une histoire. Tiens, puisqu'on est dans les JO, match de prépa de l'équipe de France de basket.
Du coup, en fait, il va à la Juve et du coup, il fera
pas le... Ce serait marrant, ça.
Alex Biegerstaff, les Français qui déroulent face aux Turcs avec Bibi. Hein. Il est là, Bibi, ou pas? Il n'est pas la bille. Bon, il y a 43.
Oh, même 19 points d'avance pour l'équipe de France. C'est absolument énorme. On ne voit encore une fois qu'une seule équipe sur le parquet. Les Turcs ont beaucoup de mal à trouver hein, des espaces à l'intérieur. Tant la taille de Victor Wembanyama, on va le rappeler, 2m24. Et aussi celle de Rudy Gobert, 2m16. Les gênes, on est à 2m45 et 2m36 d'envergure. Bref, je ne vous raconte pas le chantier que c'est. Victor Wembanyama, meilleur marqueur des Bleus pour l'instant avec... 11 unités, et on rappelle le contexte, hein, les Bleus sont vice-champions olympiques en titre, mais sur le papier, ils paraissent encore plus forts qu'il y a 4 ans.
Ah, c'est incroyable, ouais, ça, on dit.
Là, il y a du sport olympique, là, j'ai envie
de regarder. Là, c'est des amateurs, là, tu vois.
Ouais, bah, là, en plus, ils ont des petits contrats. Là,
ouais, voilà, ouais. Et puis, dernière chose, messieurs, bah, c'est vachement agréable de voir une équipe de France cadrer ses tentatives.
Ah ouais. Ça change du foot,
ça change un peu.
Ouais, mais nous aussi, on s'est tiré au-dessus hein, au foot. Hein, t'inquiète,
mal perdu.
Merci, Bibi. Tiens, quelques petites infos du jour pour les dernières minutes. Sachez que le trophée des champions qui mettra le PSG Monaco face à face a été reporté. Alors, l'équipe qui explique que le match qui devait se dérouler à Pékin cet été devra se jouer à une date ultérieure en raison de problèmes administratifs. La LFP a jamais eu les autorisations définitives alors qu'elle s'était déplacée sur place pour préparer l'événement. Elle avait trouvé un diffuseur, un promoteur, etc. Conséquence, la Ligue va devoir trouver une nouvelle date et un nouvel endroit pour la tenue de la rencontre.
Quoi,
fou, hein.
Ils avaient trouvé un diffuseur.
Ah ouais, c'est ouf. Hein, comme quoi, tout est possible hein, également.
Quelle surprise.
T'as vu, c'est fou. Que... Non, mais c'est ouf quand même.
Dire, en Chine.
Voilà. On est sur un gros dernier mois de la LFP.
Ouais, je sais pas si c'est le dernier d'ailleurs. Mais bon. Alors, quelques infos mercato également. Beaucoup qui concernent l'OM. C'est officiel depuis quelques minutes. Brassier à l'OM, c'est fait. Ils ont annoncé l'arrivée d'Ismaël Koné également, milieu de terrain canadien de 22 ans qui arrive de Watford. Ils ont officialisé les Marseillais le départ d'Iliman Ndiaye à Everton. Il y a signé pour 5 ans. Et puis aujourd'hui, il y avait Brice Samba qui était en conférence de presse avec l'équipe de France. Et le gardien de 30 ans, qui est sous contrat avec l'Ange en 2028, a été interrogé sur la possibilité de retourner à l'Olympique de Marseille. Écoutez sa réponse.
Ce n'est pas à l'ordre du jour, en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux. Tout le monde connaît l'attachement que j'ai avec ce club-là, que j'ai connu à l'âge de 18 ans. On verra bien. Moi, je ne me prends pas la tête. On verra d'abord la position de Lens vis-à-vis de moi. Je suis très, très content, très, très fier d'être le capitaine de Lens. Et s'il faudra rester à Lens, on restera. Mais en tout cas, je ne ferme aucune porte et on verra ce qui va se passer cet été.
Le message, il est clair, non?
Je peux traduire?
Ouais. On peut traduire.
Tu parles
dans toutes les langues, Kev, Steve.
J'aimerais bien aller à l'OM. Ouais,
il y a un peu
après
ça.
Après l'Euro.
Je veux pas quitter Lens, mais s'il peut y avoir l'opportunité d'aller à l'Olympique de Marseille, je ne ferme pas la porte.
Ouais, ils sont quand même hyper actifs sur le mercato
contre,
Marseille.
Hein. Par contre, si l'OM arrive à faire Brice Samba, après les deux recrues déjà encourageantes et très intelligentes, on est sur quelque chose qui ressemble à quelque chose d'intéressant quand même, ouais. Voire de très très intéressant.
Il est encore en concurrence avec Mélier? De Leeds?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Que ce soit l'un ou l'autre.
Mélier, c'est bon, ça. Ouais.
De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ouais. C'est très bien.
Ouais. Les gars, petite parenthèse tennis, parce qu'il se passe un truc de fou à Wimbledon. Je rappelle qu'il y a le deuxième tour de Wimbledon. Alors, le truc de fou, c'est qu'Eric Salio y est déjà. Mais c'est surtout Gaël Monfils qui affronte Wawrinka. Et alors, Eric, il est là, Gaël.
Et il est là, il a le pied jardinier. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'âge, il se bonifie et il est très à l'aise sur le gazon et surtout, il mène 2-0 face à Stan Wawrinka, 7-6, 6-4. Je sais pas si le match va aller à son terme puisqu'il est pas loin de 21h chez nous et ce court numéro 2, il a pas de toit, il a pas d'éclairage. Mais bon, pour l'instant, ça continue à jouer. En revanche, sur central, ça ira au bout puisque le toit a été déroulé. Et Yannick Sinner, toujours aussi impressionnant, toujours aussi clinique dans les moments chauds. Deux tie-break à zéro pour Yannick Sinner face à son copain Matteo Berrettini. Et puis Varvara Gracheva, la française, je vous en ai pas parlé, va servir pour la qualification pour le troisième tour. Elle est opposée à l'Ukrainienne Yastremska.
Merci beaucoup Eric. Quelques petites infos mercato pour terminer avant de donner la main à l'after. Ethan Mbappé a passé sa visite médicale à Lille. Dernier détail en cours de négo avant l'annonce de la signature de l'attaquant de 17 ans avec le LOSC. Donc il va balayer bien les là-bas.
Ouais. C'est bien.
C'est bien.
Ouais.
Voilà, c'est
bon
bien.
Transfert pour
bon transfert Olivier Létang qu'il connaît bien donc
pour lancer sa carrière en pro, c'est très bien.
Ouais. L'OL qui a officialisé la prolongation de Pierre Sage, bon c'était dans les tuyaux, ça a été officialisé aujourd'hui, il a signé jusqu'en 2026 Pierre Sage qui a donc refait son staff hein, également ouais. Ces derniers temps qui s'est étoffé. Le Havre qui annonce l'arrivée d'Ismaïl Bouneb, milieu terrain de 18 ans qui quitte Valenciennes pour le HAC, c'est un international U18 bleuet, il a signé 4 ans. Bon petit joueur d'ailleurs paraît-il un milieu français.
On avait vu au Mondial U17 ouais, exactement. Quand ils font finale.
Exactement. Et puis deux petites infos pour terminer. Selon Sky Sports, le Bayern Munich et Fulham ont trouvé un accord pour le transfert de Palinha, qui devrait affronter l'équipe de France. Il devait y signer il y a 6 mois.
Qu'est-ce qu'il est ouais.
Bon, je l'adore. Mais Je comprends même pas que le PSG, c'est pas le premier mec qu'ils aient recruté, mais bon.
Ils avaient signé l'été dernier, mais ça s'était pas fait pour.
En fait, c'est trop tard. Le fax n'est pas arrivé au bon moment. Il était là-bas et tout, prêt à signer, ça a pas pu se faire. Et puis dernière info, le défenseur de 22 ans, Riccardo Calafiori, qui avait été le héros de l'Italie en dernier match de poule, devrait quitter Bologne pour Arsenal. Bon petit joueur aussi lui d'ailleurs.
Ah, c'est un joueur qui a grandi à la Roma, qui était extraordinaire.
Tu l'as connu toi?
Non. Il finit bien après, mais une grosse blessure. On craignait pour sa fin de carrière, mais c'est un super joueur et dommage qu'il ne soit pas resté à la Roma.
Alors, évidemment, il y a Gabriel Saliba qui est un duo qui a fait ses preuves en première ligue. Ils ont été vraiment performants. Mais Calafiori en défense centrale avec pourquoi pas Saliba, je demande à voir.
Ça va être fort.
Ouais, ça peut être pas mal. Merci beaucoup, Elton Mokolo.
C'était un vrai plaisir.
Merci, Ricardo Fati.
Merci, Nico.
Merci, Kevin Diaz. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et puis surtout, vous restez avec nous. L'after arrive dans un instant. Walid est déjà chaud. Gilbert également. Daniel est dans le coin également. Et nous on revient dans une poignée de secondes sur RMC. N'oubliez pas d'ailleurs, il y a l'alerte avec le jeu, l'expérience RMC a gagné avec des places, le voyage également offert pour assister à la demi-finale de l'Euro. Ce sera le 9 juillet prochain. À tout de suite sur RMC.